Monsieur, bonjour. Merci beaucoup d'être aussi nombreux à avoir répondu à notre invitation, d'autant que cette invitation vous a été transmise il y a peu de temps. Donc merci d'être présent et de, à travers vous, de représenter la quasi-totalité de nos établissements d'enseignement supérieur sur le territoire. Alors, tout d'abord, je voudrais évidemment vous donner quelques indications sur la raison d'être de cette journée, surtout dans ces délais extrêmement courts. La raison principale, évidemment, est liée au fait que nous avons à préparer et donc éventuellement à faire face à cette pandémie donc grippale qui préoccupe évidemment un certain nombre de personnes depuis quelques semaines, voire même quelques mois maintenant. Et on s'aperçoit que pour assurer une bonne continuité à la fois administrative mais aussi pédagogique, il est important de pouvoir mobiliser un certain nombre de ressources et plus particulièrement, comme ces dernières années, la partie numérique dans nos établissements a eu tendance à se développer plus que jamais. Je crois qu'il est nécessaire de pouvoir capitaliser sur ce qui existe et faire en sorte que là aussi il y ait un développement encore plus important du recours au numérique. C'est un travail qui, je dirais, à l'intérieur de vos établissements va nécessiter aussi une mobilisation et un fonctionnement en mode projet. Je sais que parmi vous, certains ont parfaitement l'habitude de cela, mais je crois que plus que jamais, il est nécessaire de le faire. Quand je regarde un petit peu la liste des participants à cette journée, vous êtes un certain nombre à représenter en fait l'instance de gouvernance, hein, puisque vous êtes un certain nombre de vice-présidents CVU, vous êtes aussi des directeurs de services informatiques, des responsables TIC, des spécialistes aussi de l'enseignement à distance et des directeurs de services communs de documentation. On voit que la mobilisation là, elle est extrêmement large et on ne peut que s'en féliciter. Parce qu'encore une fois, ce sujet, qui est un sujet, je dirais, d'actualité immédiate, est aussi l'occasion, évidemment, de mettre cette fois-ci en commun des pratiques d'ores et déjà existantes et contribuer à ce que ces pratiques se diffusent. Alors, vous le verrez, dans les objectifs que l'on peut assigner à cette journée, c'est d'abord le fait que vous puissiez échanger aussi entre vous, que vous puissiez avoir un état des lieux sur un certain nombre de sujets clés, comme ce sera le cas dans quelques instants, sur les infrastructures et les services, sur la manière d'accompagner les enseignants dans la préparation de ces outils numériques, puisqu'encore une fois, le point qu'il me semble important de rappeler, c'est que c'est aussi l'occasion de procéder à un renouvellement, hein, d'un certain nombre de modes pédagogiques, puisque le recours même au numérique modifie un certain nombre de choses, et c'est pour cela qu'il faut aussi identifier un certain nombre de verrous psychologiques qui peuvent exister chez un certain nombre de collègues. Nous avons pu le voir ça et là, qui parfois n'ont pas encore pris la pleine mesure de l'intérêt de ces outils pour, je pense, développer à la fois la diffusion de connaissances et puis aussi pour créer un lien et une relation avec les étudiants qui est constitué de manière nouvelle. Alors, Je tiens aussi à remercier le Cérimès. Vous avez vu qu'il y a quelques caméras qui sont présentes. Les différents intervenants vont au fur et à mesure être filmés. Le Cérimès est le centre de ressources et d'informations sur les multimédias pour l'enseignement supérieur. Ils ont accepté de filmer nos travaux et ces travaux seront mis en ligne sur leur portail qui d'ailleurs a été récemment rénové. C'est un portail ouvert de ressources multimédia pour l'enseignement supérieur, et je crois qu'on est à travers ce type d'outils dans le cœur de ce qu'il est possible de faire. Alors, si cette journée a pu voir le jour, c'est évidemment aussi en raison de l'engagement à la fois de Jean-Yves Capuul, sous-directeur des TIC, et aussi de Michel Marian. Hein, je crois que le travail a été en amont extrêmement extrêmement important. Alors en tout cas, les vœux que je formule pour vous au cours de cette journée, c'est que vous puissiez à travers les échanges que vous allez avoir, identifier comment on peut évidemment diffuser un maximum de ressources et de bonnes pratiques. Encore une fois, le délai qui nous est imparti est extrêmement court, et je crois que c'est une contrainte, mais on peut aussi transformer ces contraintes en opportunités, parce que je crois que c'est l'occasion ou jamais de procéder à une extension d'un certain nombre de méthodes et de bonnes pratiques. Alors, j'espère que la journée sera aussi l'occasion d'identifier quels sont les points sur lesquels il faudra encore mettre l'accent, à la fois dans vos établissements, et puis éventuellement comment on peut construire aussi la relation entre le ministère et vos établissements en la matière. En tout cas, le plan de continuité cette fois-ci concernant la pandémie grippale est un plan qui précise un certain nombre de choses. Vous avez dû voir dans vos établissements que les différentes instances ont normalement été saisies aussi de cette question, puisque les plans de continuité sont généralement débattus en CTP et puis en conseil d'administration. Et je pense que vous avez dû aussi, sur le volet numérique, échanger sur ce point en CVU. Donc ce sont évidemment des instances qui permettent l'échange avec la communauté universitaire, l'objectif étant là aussi de faire en sorte que dès lors que le plan de continuité doit être mis en œuvre, il puisse être activé le plus rapidement possible. Alors j'ai évidemment aussi conscience qu'un certain nombre, j'évoquais tout à l'heure des freins, il y a encore des questions qui peuvent rester ouvertes, parce que vous pouvez avoir des ressources très importantes dans certains établissements, mais qui pour le moment sont, je dirais, limitées à certains périmètres, sont pas forcément des ressources ouvertes à tout le monde. Ce sont en tout cas des questions qui méritent, je pense, d'être discutées aujourd'hui pour voir comment on peut faire en sorte que si nous nous retrouvons avec un déclenchement de plans de continuité dans un, plusieurs, voire l'ensemble des établissements, des processus, y compris de mutualisation, puissent intervenir de telle sorte que les étudiants soient dans une situation où le meilleur service public d'enseignement supérieur puisse leur être rendu. Le recours depuis un certain nombre d'années déjà à l'enseignement à distance montre que l'on peut faire des choses extrêmement extrêmement intéressantes, notamment en variant les supports, recours à du podcast combiné avec du document écrit, avec de l'interactivité. On peut là varier les processus là aussi pour être le plus complet possible et atteindre un certain nombre d'objectifs pédagogiques. En tout cas, j'espère que cette journée sera fructueuse pour permettre ces échanges. Et en tout cas, je regarderai avec beaucoup d'intérêt les conclusions qui interviendront en clôture de journée, puisque ce seront autant de pistes pour poursuivre le travail. Donc, je vous souhaite une excellente journée de travail en commun. Et sans tarder, je passe la parole à Jean-Yves Capule.
Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci aussi pour l'engagement de la DGCIP en faveur du développement des usages du numérique dans nos établissements. Alors, Mesdames, Messieurs, merci encore une fois d'être venus, souvent de loin, pour cette journée, un peu organisée dans l'urgence. Il y aura peut-être quelques petites imperfections. Je voudrais bien nous en excuser. Le risque de pandémie vous mobilise déjà depuis un certain temps, nous mobilise. Le point le plus important, c'est évidemment la continuité pédagogique, le service public en faveur de près de 2 millions d'étudiants. Et le numérique est là une solution, peut-être la seule. C'est une solution simple, c'est une solution pratique pour assurer cette continuité pédagogique. En effet, nos outils, nos dispositifs, ceux que vous avez développés pour la plupart dans les établissements, permettent de maintenir un lien pédagogique entre les enseignants et les étudiants, permettent de faire travailler les étudiants à distance. Et ces outils et ces dispositifs permettent aussi de mettre à disposition des ressources d'apprentissage. Alors, Madame la Ministre, son cabinet nous ont demandé depuis un certain temps, la DGCIP et la SDTIS du secrétaire général, de travailler sur le dossier pandémie. Je voudrais simplement rappeler quelques petits éléments. Nous avons eu l'occasion d'adresser une enquête à tous les établissements vers la fin du mois de juin. Les présidents ont été interrogés sur le fait de savoir si les dispositifs techniques, les infrastructures seraient capables d'assurer un service d'accès à distance à tous les étudiants. Deux tiers des établissements nous ont répondu et souvent c'est vous-même qui avez participé à l'élaboration de cette réponse et je vous en remercie vivement. Je vais donc très très rapidement donner les conclusions de cette enquête sur la partie infrastructure et services, et même si c'est des fois un petit peu délicat, vous serez certainement aussi interrogé dans les jours qui viennent sur la partie pédagogique du numérique, c'est-à-dire combien de cours sont mis en ligne, quel pourcentage ça peut représenter par rapport à l'ensemble des cours de l'établissement. Donc on aura besoin, dans les jours qui viennent, de savoir quel est l'état des outils, des ressources qui sont à disposition des étudiants. Alors cette enquête sur les infrastructures et les services a montré plusieurs choses. La première, c'est que la quasi-totalité des établissements dispose d'un ENT, d'un environnement numérique de travail. On peut estimer à 90% le nombre d'étudiants qui sont couverts par un environnement numérique de travail. Certains établissements étant aussi en cours de rattrapage, je pense à certains établissements de la région parisienne. Il y a quand même de fortes inégalités, puisque dans certains établissements, une grande proportion d'étudiants n'ont pas encore validé leur compte ENT ou utilisent assez peu ces dispositifs. Néanmoins, avec les risques de pandémie, on peut estimer que ces ouvertures se feraient de façon accélérée, d'autant plus qu'elles sont possibles à distance. Et puis, il faut aussi noter que les établissements qui ne disposent pas d'environnement numérique de travail ont quand même mis en place des plateformes de travail, de plateformes pédagogiques qui pourront jouer le rôle de lien avec les étudiants. Alors, tous les établissements ont mis un accent particulier sur les outils de communication électronique. Je ne détaille pas ce point. Messagerie électronique, canaux de diffusion d'informations pour que les étudiants puissent être au courant de ce qui se passe dans leur établissement en cas de pandémie. Mais en matière pédagogique, il y a donc ces plateformes, des espaces de stockage, des dispositifs de diffusion de cours, de podcasts, à des proportions extrêmement variables, classes numériques, classes virtuelles, visioconférences, toutes sortes d'outils sur lesquels nous allons pouvoir échanger dans quelques instants. Vous nous avez aussi répondu sur les réseaux, les serveurs, en nous disant que les réseaux informatiques de vos établissements étaient plutôt bien dimensionnés pour absorber un grand nombre de sessions simultanées. Là aussi, on va pouvoir très vite échanger sur cette question-là. Nous avons quand même noté que quelques établissements déclaraient très franchement ne pas être en mesure de passer à une généralisation des enseignements à distance en cas de risque pandémique. Vous n'avez pas pu aussi développer de tests de montée en charge, puisque on serait dans une situation quand même extrême dans ce cas-là. Certains établissements, c'est le dernier point, parce que je le cite parce que vous allez sans doute y revenir, ont souligné l'importance du facteur humain dans la maintenance des équipements. Il faudrait évidemment que dans les établissements restent une ou deux personnes pour assurer un minimum de maintenance, des personnes qui évidemment peuvent être aussi touchées de la même façon que les autres. Donc il y a quand même un risque humain qui a été souligné par la plupart de vos réponses. Voilà, ça c'était un premier élément, l'enquête menée depuis quelque temps. Certains établissements continuent d'ailleurs à nous donner les réponses. Je voudrais aussi revenir très rapidement sur le plan podcast et Wi-Fi qui a été annoncé par la ministre mi-juillet. Grâce aux mesures du plan de relance gouvernemental, un certain nombre de ressources ont pu être dirigées vers le numérique dans les établissements d'enseignement supérieur et l'investissement sur le podcast, 6 millions consacrés au développement d'outils podcast, à dépenser, puisque les crédits ont été délégués très rapidement, c'est le cas du plan de relance, peuvent vous aider à mettre en place très rapidement donc ces outils pour favoriser la diffusion en ligne de cours ou de supports de cours. Le cabinet nous a demandé aussi, on l'évoquera en fin de journée, de développer un portail de ressources de façon à ce que tous les étudiants et les enseignants puissent avoir rapidement et de façon simple accès à des ressources numériques, des ressources pédagogiques. C'est le portail Université numérique qui sera le support de ce portail de ressources. Et bien évidemment, il s'agit du portail des UNT, donc ce sont les ressources des universités numériques thématiques qui seront accessibles, rendues plus facilement accessibles aux étudiants, ainsi que toutes les ressources qui sont aujourd'hui ouvertes sur les sites des différents établissements d'enseignement supérieur, l'objectif étant qu'à terme, il y ait aussi d'autres ressources, celles qui sont aujourd'hui, on va dire, peu ouvertes sur l'extérieur et qui sont pourtant nombreuses dans vos établissements. Pour mémoire, un dernier point qui est la situation des étudiants qui ne sont pas équipés ou connectés. Vous nous avez aussi donné quelques réponses sur la situation de votre établissement. De façon nationale, je pense qu'on peut rappeler les chiffres du CREDOC qui ont l'inconvénient de dater d'un an. 80% des étudiants, on va dire seulement, sont équipés et connectés à domicile. 10% étaient équipés mais se connectaient sur les lieux universitaires, ce qui fait qu'aujourd'hui on avait quand même 9 dixièmes des étudiants qui avaient un accès Internet chez eux et aussi dans l'établissement, ce qui ne sera pas le cas évidemment en cas de risque de pandémie. Et on considère donc qu'il y aura 10 à 15% en gros aujourd'hui d'étudiants qui auront un problème de connexion à Internet. C'est pour ça que je crois que les opérateurs, à la demande du cabinet, des opérateurs de fournisseurs d'accès, sont en train d'étudier des formules particulières pour pouvoir aider les étudiants, et au-delà des étudiants, tous ceux qui sont chargés de travailler avec Internet chez eux, des formules peut-être plus simples et moins coûteuses pour éviter cette fracture qui pourrait quand même perdurer durant cette pandémie. Alors sur la journée d'aujourd'hui, très très rapidement, une ligne nous est fixée, le maximum de cours en ligne et le maintien d'un lien pédagogique avec le numérique. C'est un défi pour nos établissements puisqu'il faut passer à une certaine généralisation alors qu'aujourd'hui on s'était surtout attaché à accompagner les étudiants. C'est un changement d'échelle qui impose évidemment un certain nombre de problèmes. Le premier d'entre eux, et je crois que ce sera quand même le thème principal de notre journée, même si elle est diffusée en 4 thèmes, c'est comment aider, comment accompagner les enseignants, comment faire sauter le verrou pédagogique et le verrou psychologique dont parlait le directeur général. Voilà tout ce que nous allons voir aujourd'hui. L'objectif de cette journée, comme il vient d'être dit, c'est un échange d'expériences. Dans les réponses que vous nous aviez faites, il y avait aussi des éléments sur la pédagogie, sur des dispositifs que vous mettiez en place pour faciliter l'accompagnement des enseignants. Et ce sera intéressant de les présenter à l'ensemble. Parce que cela peut évidemment être utile. Alors, pour tout de suite préciser aussi le cadre de nos échanges, il faut que ce soit des dispositifs, des solutions, des outils qui soient utiles, mais qui soient aussi transférables, reproductibles, rapidement. On ne va pas promouvoir un ENT qui met des semaines et des semaines à se mettre en place. Il faut être pragmatique, c'est-à-dire que cette transférabilité doit se faire à coût humain faible et extrêmement rapidement. Et à la fin de la journée, comme l'a dit Patrick Hetzel, nous chercherons à identifier les actions qui peuvent être menées, y compris au niveau national. Alors je voudrais remercier les collègues qui ont accepté très rapidement d'intervenir et d'animer les différentes tables rondes. Je vous rappelle que nous aurons un buffet qui sera organisé dans le hall de la poule pour pouvoir poursuivre nos échanges autour d'un repas. Et pour terminer, je souhaiterais dire que les échanges que nous aurons aujourd'hui et ce que vous avez fait, ce que vous allez faire dans vos établissements ne sera pas vain, puisque au-delà d'un risque dont on espère tous qu'il ne se réalisera pas, eh bien, c'est le développement des usages du numérique avec les enseignants qui est en jeu et qui va certainement progresser dans les semaines à venir. Voilà, merci encore une fois à tous et nous allons pouvoir démarrer la première table ronde avec Khadija Adib de la sous-direction que je remercie et qui va animer ce débat. Bien, monsieur Cadet, monsieur de Carnet. Et Monsieur Castex aussi. Voilà. Alors, le principe de ces tables rondes, c'est que ce n'est pas tout à fait une table ronde, c'est que nous avons demandé aux intervenants de faire une présentation extrêmement courte, certainement frustrante, puisque je serai peut-être amené à leur couper la parole, mais c'est simplement pour présenter une illustration de ce qu'ils ont fait, l'objectif étant évidemment d'échanger, d'entendre ce que vous pouvez proposer à tout le monde, pour évidemment remplir le petit cahier des charges que nous sommes fixés pour les jours qui viennent.
Alors, bonjour. Le premier thème va être les infrastructures et les services numériques, qui va être présenté par François Cadet. François Cadet est le directeur de l'informatique et des systèmes d'information, la DISI, de l'Université Paris-Descartes, Paris 5. Il est accompagné de son directeur technique, donc directeur technique de la DISI, Patrick Decarnet. Ensuite, on passera à la présentation d'Éric Castec. Éric Castec est chef de service de l'atelier développement Internet et multimédia à la direction TIS de l'Université Toulouse de l'UNIRAI. Donc, à toi, François.
Merci, bonjour. Très rapidement, le contexte. Donc, Paris-Descartes est une université en sciences de l'homme et de la santé, 14 composantes, essentiellement donc médecine, pharmacie, odontologie, biomédicale, droit, économie, gestion, sciences humaines et sociale, psychologie, mathématiques et informatique, STAPS, et un IUT. On note 35 000 étudiants, 2 000 enseignants, 1 500 chercheurs et ITA répartis dans 105 équipes de recherche. Une dispersion géographique dans Paris et en très proche banlieue sur 12 sites. La méthode, on a essayé d'identifier les services vitaux, les activités qu'on pouvait assurer en télétravail, renforcer les infrastructures d'exploitation au service de la communication et de la pédagogie. Cette approche s'inscrit dans notre schéma directeur du système d'information. Ce n'est pas une approche que l'on a mis en place pour la pandémie. C'est quelque chose qui était déjà en route. Les grands axes, naturellement l'infrastructure technique qu'on va détailler, et les services pour les étudiants autour de comment communiquer, capter, diffuser et enseigner. Les infrastructures de communication, donc la chaîne de liaison entre l'Internet et le campus. Il y a des choses qui existent, qui marchent très bien, comme Renater, le réseau académique parisien. On a de la chance au niveau parisien parce que ce réseau est très bon. Ensuite, notre propre réseau au niveau du campus de Descartes, que je vais décliner en trois parties, la salle machine, les accès distants et les accès nomades. Descartes vers l'Internet, c'est le réseau RAP, c'est le réseau donc académique parisien qui permet de relier les 64 établissements parisiens sur 139 sites, 350 000 usagers. Ce qui est important de noter, c'est le débit. L'anneau optique à 10 gigabits autour de 5 points de connexion. Descartes est connecté sur ce réseau à travers 11 sites, tous connectés à ce réseau académique parisien à 1 gigabit. Et le cœur passe en adjonction sécurisée sur deux POP, c'est-à-dire que si une jonction coupe, l'autre reprend automatiquement. Et donc on migre à un attachement à 10 gigabits aujourd'hui. Ce qu'on a essayé de faire, c'est optimiser le cœur. Donc le cœur du réseau au niveau de Paris-Descartes. Donc l'autonomie énergétique en salle machine. Là, on a mis en place un nouveau groupe électrogène pour avoir une totale indépendance à la fois vis-à-vis du site où on avait quelques problèmes électriques et vis-à-vis de l'extérieur. Extension de l'onduleur en salle machine pour une meilleure protection et consolidation des équipements de la salle machine. C'est-à-dire qu'on a mis en place 4 châssis, on a mis une lame 8 cœurs avec 96 gigabits de RAM et des serveurs tous interconnectés à haut débit à 10 gigabits. Le tout avec des outils pour suivre et maîtriser naturellement le souci principal, le nombre d'accès simultanés. Avec 40 000 utilisateurs potentiels, les 36 000 étudiants, le personnel, combien d'accès simultanés on va pouvoir garantir? On a aussi augmenté tout le stockage sur un serveur SAN avec 45 nouveaux disques pour la forte volumétrie et l'introduction aussi d'outils nouveaux pour prendre mieux en compte les supports vidéo pour que s'il y a un grand nombre de téléchargements, ceci ne soit pas ralenti dès qu'il y a trop de connexions simultanées. Puis des choses toutes bêtes comme le rapprochement des ingénieurs réseau qui étaient dans un autre site que la salle machine, on les a mis sur place à côté des locaux et aussi à côté de la partie du département TIS pour qu'ils collaborent vraiment de façon très étroite. Au niveau de la communication, donc on a mis en place, alors ça c'est important, c'est un serveur VPN, donc c'est un serveur d'accès 500 connexions sécurisées. Donc on va pouvoir distribuer à 500 personnes qui de chez eux vont pouvoir disposer d'un tunnel sécurisé avec nos sites. Service de visioconférence aussi renforcé. On a déjà une visioconférence renforcée entre nos différents sites puisqu'on a mis en place au printemps dernier un codec professionnel qui permet une connexion simultanée entre 15 salles. Et une vraie visioconférence entre 15 salles, on l'a éprouvé, testé, ça fonctionne. On a également acheté des kits de visio individuels pour renforcer tout ça. On utilise aussi des services développés au niveau de l'UNR Paris-Île-de-France, tels que EVO, les classes virtuelles. Et on a développé notre service vocal interactif. Un serveur basé sur un Centrex Mosaica internalisé. De même que on a mis en place un service de SMS par le web. Pour renforcer l'accessibilité et pour répondre justement aux personnes qui seraient pas équipées ou pas bien équipées, on a mis en place un kiosque de prêt de PC portable ou MacBook pour les enseignants, qui sont configurés pour le téléenseignement, donc avec vidéo caméra, micro, etc., et le logiciel, et on les accompagne à la prise en main de ce logiciel pour ceux qui ne sauraient pas encore faire. De même, associé au VPN, un parc de clés 3G, des clés qui dureraient un mois, qui pourraient être mis à disposition des personnes qui ne seraient pas équipées du réseau chez eux ou éventuellement des personnes qui ne voudraient pas faire la dépense. Pour les étudiants aussi, suite à ce qui s'est fait à Paris, Pierre et Marie Curie, à Paris 6, on reprend la très très bonne idée des clés AgoraBox pour les étudiants défavorisés qui leur permet d'avoir un ENT sur une simple clé. C'est une très très bonne idée, quelque chose qui est à suivre. Et puis, le nomadisme. Là aussi, l'infrastructure Wi-Fi a été doublée grâce au plan de relance de la SDTIS et aujourd'hui, on peut annoncer 600 bornes dans l'université. Ces services nous permettent donc de communiquer. Les actualités sont profilées via des fils RSS sur le portail de l'ENT. Profilés, trois profils, étudiants, enseignants, personnels et profilés aussi par composante. On a mis en place un site web dédié à la communication autour de la pandémie. On s'appuie également sur nos outils de GED, à savoir on a des outils collaboratifs qui existent comme Corail. On est en train de terminer la mise en place de Nuxeo et naturellement nos plateformes pédagogiques, le dossier étudiant. Et un grand point qui a été une décision politique prise au conseil d'administration du 30 juin dernier, l'externalisation de la messagerie étudiante. Alors l'externalisation de la messagerie étudiante, c'est un point important. Ça permet de mettre à disposition des étudiants des capacités très importantes. On passe aujourd'hui de 50 millions de caractères disponibles par étudiant à 5 gigas dans un premier temps, puis à 50 gigas avec un espace de documents. Les services captés. Donc la confection de cours pour diffusion sur podcast, on propose trois solutions, captation en amphi automatisé, donc informatique et vidéo, ou audio en amphi. On en a aujourd'hui 18 d'équipés. On peut aider également, grâce à notre studio professionnel de notre département TIS, avec une assistance audiovisuelle et un travail en équipe, ou alors à distance avec les équipements que on distribue, soit que la DISI distribue, soit que certaines composantes ont déjà acquis, comme par exemple en faculté de pharmacie. Alors tout ceci a été étendu naturellement grâce au crédit du plan de relance qui nous a permis de compléter, qui nous permet aujourd'hui de compléter tout cet équipement qu'on avait déjà testé et en partie mis en place. Pour diffuser, naturellement via l'ENT, c'est le seul point d'accès pour tout le monde, pour tous les outils de Paris Descartes. Comme je disais tout à l'heure, on a renforcé les moyens de streaming, le démarrage du multicast, et on s'appuie également sur quelque chose qui existe à Paris Descartes depuis quelque temps, l'entrepôt de données multimédia. On a aujourd'hui 3000 ou 3500 ressources dans cet entrepôt de données multimédia qu'on va continuer de développer avec différents outils. Ceci aussi en mettant en place des consignes pour avoir une régulation de flux. Parce que si tout le monde, si les 30 000 étudiants se mettent sur la médiathèque, ça ne marchera pas. Donc on va essayer de partager les différentes ressources en utilisant naturellement les différentes plateformes pédagogiques. L'outil principal, c'est Moodle. Mais pour la médecine, on est en train de mettre en place Docéos Médical. On a également développé une plateforme qui est très utilisée, va encore se développer au cours de l'année qui vient sur les carnets de Descartes, qui reposent sur l'outil libre ELG. Naturellement, des moyens de bibliothèque numérique, donc ADEL, la Fédération d'identité, ADEL sans E, la Fédération d'identité Chibolette pour permettre de mieux communiquer et de partager avec nos étudiants qui sont éventuellement dans d'autres universités. Et on s'appuie également sur les ressources des UNT. Tout ceci, c'est une demande, une commande de notre président, parce que ce n'est pas uniquement pour la pandémie qu'on a mis en place ces opérations. La pandémie nous a permis d'accélérer ce processus. L'idée du président Kahn, c'est un campus numérique, une université virtuelle, pour rassembler tous les étudiants dans ce qu'il appelle la maison commune. Merci.
Merci François. Merci François. On va passer à la présentation suivante et ensuite on passera aux échanges avec la salle.
Je profite de ce petit instant pour vous dire que lorsque vous poserez des questions, attendez bien d'avoir le micro entre les mains de façon à ce que votre intervention, votre question soit filmée et donc retranscrite. Je n'ai pas interrompu le directeur général tout à l'heure, mais le CERIMES diffuse en ce moment en direct sur Canal U notre journée de travail.
À toi, Eric.
Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je vais essayer de vous présenter l'organisation donc, de l'appui numérique que propose l'Université de Toulouse de Le Mirail à ses enseignants et son organisation dans le cadre de la pandémie. Donc, je viens du service TIS. La première chose, nous sommes partis de cette marguerite, à savoir que sur la base d'un besoin exprimé, en fait, l'ensemble des acteurs des services concernés par le numérique doivent se retrouver réunis pour être en réponse donc à la demande. Donc vous le voyez rapidement, donc des problèmes de connexion mobilisent l'informatique, des problèmes d'ingénierie mobilisent chez nous l'IUFM, production mobilise les services TIS, recherche documentaire mobilise le SCD. Ce qui a été mis en œuvre, c'est tout simplement de réunir ces quatre services et de les faire travailler ensemble pour réaliser les objectifs de production industrialisée des ressources numériques. À l'UTM, les services numériques, c'est trois services prioritaires. Donc, je l'ai mis en premier, c'est le bureau numérique, qui est récent, qui est proposé par notre UNR, mais qui, vous allez voir, est très utile. Le service de communication et le service de plateforme pédagogique, Moodle, qui est unique et qui sert à la fois pour le présentiel enrichi, l'enseignement à distance, on a un très grand service d'enseignement à distance, le premier de France, je crois, pouvoir dire, et la formation verte à distance. Donc l'université de Toulouse-Mirail, université de SHS, de 23 500 étudiants, un millier d'enseignants, environ un peu moins de personnel administratif. Donc le premier outil de travail sur lequel nous appuyons, donc, c'est le bureau numérique, qui sert à administrer le télétravail. Donc le bureau numérique, vous pratiquez certainement dans vos ENT, donc sert évidemment donc à mettre à disposition à des groupes constitués d'étudiants, par exemple, des ressources quand on est enseignant, etc. Il va nous servir aussi, dans notre organisation, à piloter l'organisation des services à travers un groupe de travail partagé appui numérique, permettant de piloter le calendrier de permanence, des listes de diffusion, des espaces d'échange, mise à disposition de documents, de communication, carnet d'adresse, et aussi d'accéder à l'annuaire général de contact, puisque je vous disais que ce bureau numérique est commun à l'ensemble de l'UNR Midi-Pyrénées, donc il permet d'accéder à l'ensemble de l'annuaire de l'Université de Toulouse, c'est-à-dire un peu plus de 115 000 étudiants sur cet établissement. Donc c'est un point unique virtuel qui nous sert aujourd'hui donc à piloter notre travail, mais qui sert aussi, dans un cadre de pandémie, à travailler à distance et de continuer l'activité. Les moyens techniques mobilisés, donc, je le rappelle, sont donc ce point d'accès unique, une plateforme pédagogique qui s'appelle IRIS, qui est pilotée par la direction des systèmes d'informatique de l'université, des ressources documentaires, donc qui sont disponibles au format web, du podcast également. Donc le podcast est aussi un moyen mutualisé de l'UNR, donc piloté au Centre interuniversitaire de calcul de Toulouse. Donc on a une ferme de calcul commune, donc qui nous garantit, si vous voulez, une fiabilité, une puissance de travail aussi de diffusion dans le cadre de nos travail. Donc on n'a aucune difficulté en fait pour produire massivement du podcast. Le bureau Université de Toulouse, donc notre BN, et enfin les ressources des UNT, donc nous privilégions, nous, l'Université ouverte des humanités, l'Université donc d'environnement, UVED, et CanalU, qui sont donc les thématiques prioritaires de notre établissement. Donc je vais faire, sur cette présentation rapide, un focus sur le service pédagogique, la plateforme Moodle, qui est notre principal service de diffusion. Donc, je vous rappelle, offre un environnement technopédagogique, donc offre des services d'accompagnement et de formation donc aux acteurs utilisant cet outil. L'importance pour nous de ce Moodle, c'est qu'il est sécurisé au niveau de son infrastructure technique, donc il est piloté par la direction informatique, il est hébergé dans un centre de calcul, et donc il associe la compétence des acteurs qui travaillent sur le numérique, aujourd'hui chez nous, l'UFM, le service d'enseignement à distance, la formation continue et la communication. Donc Moodle, je vous l'ai dit, fonctionne chez nous sur une seule plateforme pour l'ensemble donc de l'offre de formation et pour l'ensemble des acteurs, étudiants et enseignants. Donc tout ça a été décidé donc dans le cadre de notre projet d'établissement. C'est piloté par nos deux VP, le VP du système d'information et le VP CVU. Donc ça associe les compétences de plusieurs services. C'est coordonné et délégué par un chef de projet. Et voilà. Donc c'est l'élément clé de la réussite de l'action, qui bien sûr dépasse la problématique de la pandémie, c'est la problématique de notre établissement, c'était comment arriver à dépasser donc l'expérience de nos appels à projets, de notre réalisation donc initiée par les différents engagements que nous avons, pour passer à un développement généralisé des TIS pour l'ensemble de l'offre de formation. Ça a été rendu possible grâce à la constitution de ce point unique qui associe tous ces acteurs. Bon, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, qui fonctionne bien. Donc l'idée, c'est d'avoir ce point d'accueil permanent avec un accompagnement donc à l'acquisition de nos compétences, donc pour travailler de manière collaborative, pour aider à la scénarisation pédagogique, pour guider, pour coopérer, donc avec des outils simples, une plateforme, des moyens de diffusion. Et donc, éventuellement, bon, j'ai mis une chaîne éditoriale qui peut être mise en avant. Donc, tout ça, ça a été réfléchi depuis longtemps, comme dans beaucoup d'établissements. Donc, j'ai simplement rappelé les origines de l'initiative de l'enseignement à distance au Mirail, donc, qui a commencé, comme beaucoup d'endroits, par la formation continue et qui a abouti à une direction des services TIS. qui est dédié donc à l'appui pédagogique. Donc l'ensemble des moyens mobilisés sont classiquement, comme vient d'être dit dans ma précédente communication, donc l'ensemble des moyens aujourd'hui disponibles, c'est-à-dire donc la plateforme Moodle, mais aussi le système de podcast qui sont multipliés et diversifiés, que ce soit en production au sein de notre institution auprès des services compétents de la prestation audiovisuelle, mais également en autonomie pour les enseignants par le prêt de iPod. Donc nous avons acheté une petite flotte de iPod que nous mettons en prêt aux enseignants, qui sont très faciles à manipuler, qui permettent de faire du podcast audio très facilement, qui sont très utilisés. Voilà. Également, donc, pour la visioconférence, on a privilégié une solution légère qui s'appelle Adobe Connect, qui permet de faire de la visioconférence simple et puissante depuis son poste de travail. La solution est hébergée en location chez la société Adobe, donc qui en garantit aussi la fiabilité. Voilà. Le point unique d'accès, comme je vous ai dit, est contactable via le bureau numérique, donc en permanence, de manière distanciée. Donc physiquement, aujourd'hui, il y a aussi un point unique avec un point téléphonique et un point accueil journalier de 9h à 17h30 pour les enseignants. Mais évidemment, ça peut être aussi fait à distance. Dans le cadre de la pandémie, notre proposition d'établissement est de concevoir donc ce qu'on appelle des TIPOD, des travail personnels ouverts et à distance. C'est-à-dire que l'enjeu qui a été demandé donc juste avant l'été aux enseignants, c'est pas nécessairement de mettre massivement des cours en quelques semaines donc en ligne, mais c'est simplement de mettre en place en fait un travail personnel d'activité pédagogique durant la durée de l'interruption. Donc il a été demandé à tous les enseignants par la direction de l'université de préparer donc un travail personnel d'occupation de 10 à 15 heures par semaine, donc sous la forme d'un scénario type qui permet de mettre en ligne donc des documents, des ressources, des propositions, des consignes de travail, des formulations de conseils de rédaction, des explications d'évaluation, des corrigés types, ou simplement des activités synchrones d'animation, de forum, de chat, de classe virtuelle, de courriel, de travail collaboratif. Donc, si vous voulez, ça vient donc en renfort des supports de ressources numériques déjà existantes de cours, mais c'est bien sûr pas l'idée de mettre en place là massivement des cours qu'on n'aurait pas mis, mais voilà, tout simplement, c'est une organisation de travail. Donc, c'est ce qu'on s'est œuvré à mettre en place. L'autre point important, c'est la libération de l'authentification. C'est-à-dire qu'on n'envisage pas, en fait, de passer par l'authentification via l'ENT, mais au contraire, d'ouvrir les accès pour simplifier, en fait, la manipulation. Tout ça parce que nous n'est pas du tout certain que nous aurons fini les inscriptions, etc., dans les périodes, etc. Voilà. Mais également aussi pour simplifier le fonctionnement. Voilà. Et de prioriser, donc, les ressources, dont je rappelle, des ENT. Et aussi de la documentation. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, la mobilisation des ressources numériques, documentaires et bibliothéconomiques à Toulouse Université, c'est 60 000 ressources numériques qui sont disponibles via les canaux de la bibliothèque. Donc, si on réunit l'ensemble de celles qui sont mises à disposition par l'UNR. Donc, c'est très important. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir compter sur nos collègues de la documentation pour nous avoir fourni tous ces moyens. Ils ont fourni également des guides d'usage de ces ressources sous forme de cours auto-formants dans Moodle. Donc voilà le schéma à peu près de fonctionnement de notre dispositif, bon, tout à fait classique, donc qui repose sur des infrastructures qui sont distribuées dans le réseau midi-pyrénéen, à la fois au centre de calcul et au sein de notre institution. Donc tout n'est pas mobilisé au même endroit et pas géré de la même manière. Voilà. Pour travailler, évidemment, les anciens disposent d'une aide présentielle, mais aussi d'une aide à distance. Ils vont retrouver en ligne sur la plateforme une aide pas à pas, des mémos, des guides et des méthodologies pour se former tout seul. Des listes de contacts d'urgence en fonction des problèmes rencontrés, soit par mail, soit par téléphone. Et dans un cas normal de fonctionnement, ils ont accès à de nombreux stages de perfectionnement Moodle, donc sur un plan de formation interne et aussi un plan de formation régionale que nous avons orchestré entre les différents établissements auprès de l'URFIST. Voilà. On s'efforce à cette occasion-là donc de mettre en œuvre aussi un niveau d'exigence de qualité des contenus diffusés. C'est-à-dire qu'on s'efforce de fournir donc des documents normalisés, correctement formatés, qui répondent donc à des problématiques d'accessibilité. Donc on retransforme tous les documents, on a limité donc les formats, les types de documents, etc., pour garantir aussi la facilité d'accès et la simplicité d'accès. Donc tout ça, bien sûr, c'est accompagné par les services TIS de l'université. dans le contexte dans lequel nous travaillons. Donc, c'est mis en œuvre, évidemment, pour développer les usages numériques à l'université. Et donc, dans le cadre de la pandémie, ça a été orchestré de telle manière qu'on puisse aussi travailler le tout à distance avec une équipe réduite. Merci.
Donc, merci à tous les trois. Là, on passe la parole à la salle pour les échanges.
Sophie Touzé de l'École vétérinaire de Lyon. Je m'intéressais, en fait, quand vous avez dit que vous allez ouvrir, enlever les authentifications pour entre autres Moodle, ça veut dire que les enseignants qui ont déposé des cours, ils sont au courant, d'accord, que leurs cours sont accessibles sans authentification.
Alors, ce que j'ai dit, c'est que si on est dans un contexte de pandémie, on mettra à disposition des TIPOD. Donc un certain type de cours, c'est pas tous les cours, et c'est ces éléments-là qui seront accessibles librement, d'accord ? Et les cours qui sont librement accessibles habituellement, oui, les enseignants sont au courant, oui. ils ont été documentés donc plusieurs fois. La première fois, donc on leur a précisé ce que l'université avait pris comme décision donc au début du mois de juillet, et récemment, c'est-à-dire en début de semaine, le président leur a renvoyé une lettre leur confirmant donc la demande donc de préparer donc ces TIPOD dans le cadre de future pandémie. Et donc, j'insiste sur le fait que c'est d'abord des ressources qui sont proposées et non des cours. Ouais. C'est pas les cours qui sont proposés, mais les ressources. Et les ressources sont en général libres. Elles proviennent très souvent des UNT, des Canalu, et voilà. Donc, c'est ça, il n'y a aucun souci. Le souci qu'on avait, c'était de résoudre la problématique de la connectivité à la plateforme. Donc, d'enlever le verrou qui est « j'arrive pas à me connecter, j'accède pas ». Donc, on voulait pas voir il ne faut pas qu'il y ait ce genre de problème dans ce contexte-là. Donc, tout simplement, on l'a simplifié. Voilà.
Si je peux me permettre, à Paris-Descartes, on a complètement travaillé sur les droits d'auteur. Donc on ne diffuse rien sans qu'il y ait un document de signé. Et on a diffusé, puisqu'on a été amené à mettre en place dès janvier dernier certaines vidéos sur iTunes U. Et donc sur notre plateforme aussi, tous les documents doivent être validés et on a mis un nouveau dispositif en place avec maintenant, suite à un travail avec un cabinet d'avocats, et une validation numérique en ligne des droits d'auteur.
D'accord, ça veut dire que quand un enseignant dépose un document dans la plateforme, en fait, il va d'abord être validé.
Au moment où il dépose, il a les droits d'auteur qui apparaissent. Il faut qu'il valide et qu'il dise en même temps à quel public il destine le document, la vidéo ou autre.
D'accord. Et quand vous parliez tout à l'heure aussi vous reformatiez en fait les documents, oui. Ça veut dire que donc les enseignants vous les donnent à vous et vous voulez les retransformer et après...
Non, c'est-à-dire qu'on a donné des consignes aux enseignants pour, par exemple, qui systématiquement diffusent, si c'est un document de texte, du PDF plutôt que du Word ou de l'Open Office.
D'accord.
Voilà. Donc s'ils ne savent pas le faire, on nous demande de l'adresser. Donc il y a un technicien qui se chargera de le faire le travail. Donc aujourd'hui, ils viennent à la cellule pour le faire éventuellement. Et donc, sinon, à distance, ils peuvent le déposer. Donc, là, un bureau numérique, c'est très pratique parce que, donc, il y a des capacités de dépôt, prélèvement importants, puisqu'on a des grosses capacités de stockage dessus. Donc, et ça simplifie la méthode. Bon, en général, quand même, convertir un PDF, c'est pas très compliqué. Et donc, ça fait partie des choses qui sont indiquées aux enseignants. Pareil, on leur conseille de sonoriser leur PowerPoint, par exemple, on leur a donné une méthode pour faire ça, etc. Bon, pour le podcast, on leur demande d'utiliser tout bêtement le dispositif en place et d'éviter de faire du podcast personnel qui ne pourrait pas toujours être conforme. Donc, ils avaient commencé comme ça, donc on les guide, on les aide pour ça. Voilà, okay. C'est juste ça.
Merci.
Bonjour, Éric Pomane, Université de Poitiers. Je souhaiterais avoir des précisions sur le calibrage justement de vos espaces de stockage, en particulier par rapport au podcast.
Disons que dans le cas de Paris-Descartes, le problème de calibrage des espaces ne se pose pas trop. Ce qui est le plus problématique, c'est l'exposition des œuvres donc par le web et donc le mixage entre téléchargement et streaming qui nous préoccupe. Donc... le nombre de vidéos est donc encodé dans un format standard comme l'H264 est de toute façon suffisamment raisonnable pour que les espaces mis à disposition, comme on l'a indiqué, soient à très largement suffisants. Donc pas de problématique de stockage, plus de problématique de diffusion et de nombre d'accès simultanés lors d'un événement amenant à un nombre d'utilisateurs simultanés très important.
On a insisté sur cette partie de diffusion simultanée qui nous paraît aujourd'hui le goulot d'étranglement et le point le plus sensible dans un tel dispositif.
Oui, donc je peux dire exactement la même chose. Dans le cadre du stockage, je l'ai dit tout à l'heure, nous, le podcast est hébergé sur une ferme de calcul qui a été mise en œuvre donc au niveau de l'UNR. On a largement les moyens de stocker. La dernière réunion qu'on vient d'avoir, on a confirmé qu'on avait largement la place. Mais par contre, je confirme la problématique qui est la nôtre aussi de la simultanéité de diffusion, qui aujourd'hui est bien à problématiser, parce que c'est sur ça qu'effectivement que ça peut coincer. Voilà. Donc.
Oui. Albert-Claude Benamou, directeur du MVF et du NF3S maintenant. La question que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous observez une résistance des enseignants à l'ouverture de leurs ressources, ou bien est-ce que, de manière générale, il y a une acceptation de la mise en ligne et de l'ouverture éventuelle, même à un public plus large que celui de l'ENT de l'établissement?
Pour ce qui concerne Paris Descartes, quand on a ouvert, par exemple, à iTunes, donc qui est une plateforme publique, il y a quand même eu un débat en conseil d'administration, suivi d'un vote. Le président a penché de tout son poids pour que le vote soit favorable. C'était pas acquis, mais il y a quand même une décision politique de l'établissement. Et pour rassurer les enseignants, on a fait cette étude avec un cabinet d'avocats pour bien les protéger. Ensuite, tout enseignant qui dépose quelque chose a un droit de retrait. Il peut, dans la journée, retirer sa vidéo. Si, par exemple, il considère qu'il n'était pas bon ce jour-là, il peut la retirer. Ça, c'est important de leur montrer ce droit de retrait. Ce qu'on fait aussi, pour certains réticents, c'est quand on enregistre en amphi, ils savent très bien que s'ils se positionnent un peu plus loin, ils seront pas sur le film, comme on dit. Ils ne seront pas enregistrés ce jour-là. On les entendra, on verra bien le cours, on verra bien le diaporama qui accompagne, mais on ne les verra pas eux. Ça a permis à certains grands patrons de rentrer au fur et à mesure dans le dispositif. Donc il y a toute une série de choses qu'on peut mettre en place, mais surtout au fur et à mesure. Ils y viennent.
Oui. Donc je pourrais insister là sur cette idée de au fur et à mesure, et surtout donc dans le contexte que nous avons mis en place, j'insisterai sur un point, c'est que on a accordé beaucoup d'importance à l'accompagnement et à l'ouverture de possibilités aux enseignants, donc par un point d'accueil qui est très flexible, qui est très souple, et sur lequel ils vont trouver non pas de la technique, mais de l'ingénierie. Je rappelle donc que sont mobilisés dans ce service prioritairement des ingénieurs de formation et des anciens chercheurs du domaine de la e-pédagogie, volontairement tous experts du domaine, et pour la première fois rassemblés. Bon, bien sûr, c'est aussi une volonté de l'établissement, politiquement fortement appuyée et pilotée, je l'ai rappelé par deux vice-présidents, mais c'est ce côté important de l'accompagnement qui joue en faveur et qui décoince souvent le problème. Voilà.
Pardonnez-moi, on va rester plutôt dans les infrastructures parce que ces sujets vont être, et les services et les plateformes, parce que l'accompagnement, c'est les thèmes d'après. Il faut leur laisser quand même des choses à dire.
Cédric Aurobéchotte, Université Toulouse 3, Paul Sabatier à tout. Dans le cadre de développement de ces ressources, quelle mutualisation encore plus générale pouvez-vous imaginer? Notamment les accès à vos ressources d'étudiants de tout le pays, et quel rôle imaginez-vous particulièrement pour Canalu dans ces dispositifs-là?
Je vais répondre sur la partie mutualisation. Le podcast est un énorme travail d'encodage et de métier autour de l'encodage. Donc, la grille de Descartes est une grille de l'UNR. Donc, tout le dispositif et son architecture est calé de telle manière qu'elle puisse être mise à disposition des autres établissements de l'UNR et pourquoi pas à terme comme peut l'être un inter avec un ensemble de prestataires et de services, donc à une disposition plus large. Pour la partie Canalu, il est clair que si on est passé par iTunes U à une époque, c'est bien pour augmenter la visibilité de notre propre médiathèque. Donc tout dispositif au national qui permettrait d'augmenter la visibilité de nos œuvres et l'accès par notre propre communauté à des ressources extérieures est bien évidemment un élément fondamental.
Pour répondre sur la partie Canalu, dans le contexte, donc on nous a mis en œuvre en Toulouse 2, donc on est en même temps producteur de 3 chaînes sur Canalu. C'est une opportunité rêvée de pouvoir mettre en œuvre d'une manière très concrète donc les ressources pédagogiques produites sous forme vidéo dans un contexte donc de services numériques pédagogiques. Donc justement, donc on a tout fait pour favoriser en fait la connectivité donc entre les UNT et Canalu vers notre plateforme dans cet état d'esprit où justement on encourage systématiquement les enseignants, c'est le volet documentaire de ma rosace de tout à l'heure, on encourage fortement les enseignants, on les éclaire et on les guide vers ces ressources prioritaires, justement, pour résoudre les problèmes de droits d'auteur. Très souvent, en fait, c'est par ignorance ou mauvaise manipulation de ces environnements qu'ils utilisent leurs documents habituels, mais on leur dit, mais regardez, ben, ça tombe bien, mais à ce moment-là, sur le sujet qu'on aborde, vous pourriez regarder ça de plus près, et voilà. Ça donne une vraie opportunité de les mettre en valeur. Pas simplement en les citant, mais en les contextualisant dans la ressource de cours. C'est là le travail combiné.
Vous pouvez aussi présenter ou décrire des témoignages par rapport aux infrastructures et services. Donc ce n'est pas que des questions.
Bonjour, Jean-Philippe Le Tourneur, Université de Tours. En cas de forte montée en charge des serveurs, quelle alternative avez-vous prévue ?
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on a choisi déjà l'externalisation de la messagerie étudiante. Ce qui fait que, on a 40 000 accès simultanés garantis, 24 heures sur 24, toute l'année, avec de l'espace disque jusqu'à 50 gigas. Donc ça, c'est déjà première chose. Donc ça nous donne quand même une garantie de continuité de service. Et puis, notre travail a été surtout sur l'infrastructure. Donc on bénéficie déjà d'un bon réseau, c'est vrai, et on a augmenté nos capacités pour chacun de nos serveurs. En gros, quelques chiffres comme ça à la louche. Moodle, 5000 accès simultanés, Docéos Médical, 1000 accès simultanés, les carnets des cartes, 1000 accès simultanés, les applis de gestion dans l'ENT, 1000 accès simultanés. Voilà aujourd'hui ce qu'on peut à peu près annoncer. C'est des chiffres théoriques, mais pour la messagerie externalisée, c'est garanti par contrat.
Alors, je ne peux pas répondre aussi précisément dans les chiffres, ce n'est pas de mon métier. Je peux confirmer par contre que nous travaillons sur une architecture distribuée et reposant donc sur des systèmes très lourds, puisque les moyens que j'ai décrits donc, sont partagés sur différents serveurs et sur un réseau lourd interuniversitaire et distribué sur plusieurs lieux et plusieurs moyens. Ouais. Donc ça mobilise quand même des forces de travail assez importantes. Le bureau de l'UNR, il concerne toute l'UNR. Il y a 80 000 accès dessus aujourd'hui. Il a été opérationnalisé pour être fonctionnel, hein, donc ça vous garantit que ça marche. C'est fait pour.
Vous êtes apparemment sur des structures bien établies. Je ne pense pas que ça soit le cas pour tout le monde. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont prévu justement des difficultés de monter en charge ? Et dans ce cas-là, quel plan B à ce niveau-là ?
Je dois juste une précision. En fait, on est tous confrontés à une difficulté de métrologie, de mesure de la capacité de nos applications à tenir une charge. Sauf exception, il est difficile de faire du prévisionnel parce qu'il est difficile de faire du stress et donc de la métrologie. Donc l'élément clé, je crois, qui est partagé par l'ensemble de la communauté des ingénieurs systèmes, c'est la logique de virtualisation. Toutes les applications maintenant doivent être virtualisées de telle manière qu'on retrouve un minimum d'agilité en temps réel par rapport au fonctionnement et aux résultats.
C'est un mot, l'université de Paris. Paris 12, Val. Ça marche pas. Christian Regnault, Université VPC VU, Université Paris 12, Val-de-Marne. Alors, je ne sais pas si la question est appropriée maintenant, compte tenu de ce que j'ai entendu dire, puisqu'on parle des infrastructures, mais je voudrais bien qu'on mette en mémoire, donc, pour les sessions suivantes, le problème des examens et concours, parce que je ne sais pas quelle est la position, et comme on a ici un collègue de Paris 5, donc Université médicale, et je pense au PCEM en particulier, où les conditions de concours sont très strictes, est-ce qu'il y a une réflexion qui a été engagée là-dessus? Alors, je ne sais pas s'il faut en parler maintenant ou si on reste sur le domaine infrastructure. On verra peut-être après la session suivante. Voilà, merci.
Oui, Dominique Hesboun, Thies Medicine, Pierre et Marie Curie. Je me posais une question sur la notion de continuité pédagogique. S'agit-il réellement d'assurer, l'enseignement tel qu'on le pratique d'habitude, ou s'agit-il de proposer une alternative, mais qui diffère totalement sur le plan de la pédagogie même? Alors, les implications ne sont pas les mêmes parce que on est quand même dans un contexte un peu urgent, possiblement urgent, et les investissements humains, notamment ressources humaines, et je dirais le potentiel de créativité des gens dans ce domaine est pas toujours optimum, notamment quand on est auprès des enseignants qui sont moins impliqués sur les nouvelles technologies. Donc, je me demandais où placer notre effort maximum. Est-ce que tous les moyens financiers, les moyens humains, doivent être plutôt mis dans des technologies qui nous permettent tout simplement de diffuser le cours habituel, simplement cette fois-ci il va pouvoir être externalisé parce que il est enregistré, et moi je suis très partisan du différé et non pas du direct, parce que dans ces contextes d'urgence on n'a pas les moyens non plus d'assurer vraiment une qualité de service en ce qui concerne une telle masse de demandes, et on est sûr de tomber à un moment donné s'il y a trop de demandes. Donc le direct est peut-être pas forcément la meilleure solution dans ce contexte-là. Par contre, d'avoir des enregistrements qu'on met à la disposition des gens, et surtout sur des formats variés qui sont des formats et de streaming et de téléchargement, correspondant en fait à des usages différents de chaque étudiant. Un tel aura un débit assez élevé chez lui, l'autre peut-être moins, certains profiteront mieux du streaming, etc. Donc voilà un peu ma question que je me posais. Et au-delà de cette question, puisque vous avez demandé de parler un peu de nos expériences, nous c'est vrai qu'on a été un peu dans ce sens de la diffusion, avec le développement d'un système maison, donc qui a été créé au niveau de l'université même, Pierre et Marie Curie, qui est le système distance. Donc l'avantage de ces systèmes, c'est que on est capable de streamer, on est capable de fournir du téléchargement, mais en fait dans le flux qui est un flux vidéo, un flux WMV, on a des canaux d'information, on a des canaux qui contiennent les informations du cours et qui sont retranscrits en fait au travers d'une fenêtre de navigateur. L'immense avantage, c'est qu'on a des débits extrêmement faibles, puisqu'on descend à 100 kilos à peu près, alors qu'en général, en première année, nous on fait aussi, pour les P1, on fait du streaming sur Reel, Reel Server, etc., qui marche très bien d'ailleurs, pour 800 étudiants sans problème. On a eu des pics, donc Yves Eppelmoin n'est pas là, mais donc c'est lui qui pilote tout ça, et ça marche très bien depuis plusieurs années. Mais sur l'autre système, qui est le système distance, avec des débits très faibles, qui ne passent la vidéo que lorsqu'on en a besoin, c'est-à-dire qu'une vidéo est intégrée dans le cours, ou bien on a envie de mettre la vidéo de l'enseignant, ce qui, à mon avis, est franchement inutile, et je dirais même qui capte l'attention de l'étudiant au détriment du PowerPoint ou du contenu, à ce moment-là, on peut faire baisser les débits énormément. Et comme on est dans des formats streamables, en plus, on a toute la liberté de faire du podcast, du téléchargement et du streaming sans problème. Donc ça, c'est la solution de distance qu'on a, qui nous a permis, sur 3 ans de médecine, PCM2, DCM1, DCM2, actuellement enregistrer l'intégralité des cours et qui sont donc sur un serveur particulier, donc serveur distance. Voilà. D'ailleurs, la mise en place de ce système est très simple, puisque en 2-3 heures, on met en route un serveur, et après, il y a un workflow automatique qui fait que quand le cours est fini, il remonte tout de suite au serveur, parce que ça, c'est un gros problème. C'est bien de produire, c'est très très bien, c'est même facile. Il y a 36 systèmes pour capter. Le problème n'est pas la captation. Le problème, il est dans la gestion du flux et dans la gestion de la diffusion. Et ça, c'est impossible de travailler correctement dans un caractère d'urgence si le workflow n'a pas été réellement organisé à l'avance. Qui va renvoyer sur le serveur? Qui va valider? Qui va publier? Donc c'est pour ça que, par exemple, dans le serveur distance, on a aussi automatisé la diffusion, après validation manuelle, bien sûr. Cette publication, pour être plus précis, c'est une création automatique, personne ne touche au serveur. Et en fin de compte, les cours s'accumulent au fur et à mesure avec tous les modes de streaming, téléchargement et format vidéo. Voilà un peu des quelques orientations telles qu'on le pense. Bien.
Merci pour ce témoignage. Est-ce que tu voulais rappeler ?
Oui, on ne fait pas de direct non plus, hein, c'est trop lourd. Puis c'est pas, ça ne met pas tout le monde au même niveau de chance, ça aussi c'est important. Et effectivement, dans certains cours, on privilégie la voix, l'audio, parce qu'on sait très bien que c'est moins lourd et que l'audio et le PowerPoint, ça peut faire de très bons cours et ça suffit largement. Donc on pratique ça effectivement depuis 2-3 ans. Bon, on a aussi une grosse expérience en fac de médecine. Là, les 3 premières années, un peu comme chez vous, tous les cours sont enregistrés et diffusés. Le point aussi sur lequel je voudrais revenir, c'est l'automatisation de tout ça. Ça, c'est très important de savoir qui fait quoi. Alors ça, c'est pas aujourd'hui, pour répondre à Tours, c'est pas aujourd'hui dans l'urgence qu'on va faire ça. Hein. Ça se réfléchit, ça se met en place, ça se discute. Donc c'est un long travail. Mais c'est important que de dire, savoir, voilà, aujourd'hui le cours est enregistré, je le valide, je sais que dans les 24 heures, il est disponible. Sans qu'il y ait d'autres interventions techniques.
Parler aussi de l'organisation qui commence au niveau des étudiants, dans la mesure où très souvent, là, on a tous parlé des intervenants très techniques, je dirais techniciens en quelque sorte. Alors c'est sûr, c'est très important que les TIS soient bien présents et organisent tout ça, mais sans l'implication des hommes et des étudiants, je dirais, et des enseignants, ça marche moins bien. Donc on a créé ici un système avec des étudiants documentaires. Ce sont des étudiants, on est sûr que ces étudiants sont dans l'amphithéâtre. C'est une sorte de petit contrat moral avec eux. Même certains sont payés d'ailleurs en deuxième année de médecine chez nous. Ils accueillent l'enseignant à chaque fois et ils lui montrent comment on fait pour démarrer l'enregistrement du cours, ce qui est toujours simple, hein, mais bon, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc ça, c'est une organisation qui part de la base. La base est impliquée, la base apprécie ensuite les services qu'on leur propose. Et quand, juste retour des choses, un enseignant commence à rechigner parce que bon, il n'a pas trop envie d'être enregistré, etc., on a derrière la masse des étudiants qui font pression et qui disent « Non, non, nous, notre système, on en a besoin. » Et du coup, c'est quelque chose de plus cohérent parce qu'il y a vraiment une acceptation complète par les étudiants qui poussent un peu aussi les enseignants à l'utiliser.
On a exactement le même dispositif en fac de médecine avec des tuteurs qui sont dans la salle pour pousser le prof si jamais il a oublié d'appuyer sur le bon bouton. Et sinon, effectivement, le même retour au niveau des étudiants, de certaines disciplines qui disent « Oui, mais pourquoi nous, on n'a pas nos cours en ligne ?»
Hervé Liège, directeur du CERIMES. Je voudrais dire quelques mots sur l'infrastructure Canalu qui a été évoquée à quelques reprises, qui est un outil ancien, plus ancien que iTunes U, qui date de 2000, et qui est devenu un outil aujourd'hui au service des universités numériques thématiques et qui permet la mutualisation. Quelques-uns s'inquiétaient des problèmes techniques ou de diffusion, donc il fonctionne sur Renater. Les vidéos étant déposées au CINES, qui est un centre de calcul important, à Montpellier. Et cet outil aujourd'hui est donc géré par les universités numériques thématiques et toutes les universités produisant des images peuvent évidemment y déposer les ressources qu'elles souhaitent offrir de manière pertinente aux étudiants et aux enseignants. Évidemment, ces dépôts n'impliquent aucune exclusivité. Ça peut être sur Canalu et sur le site de l'université et sur le blog du professeur. Et au fil du temps, à peu près tous les outils qui nous ont été demandés par les innombrables participants, notamment par les enseignants, notamment par les UNT, ont été construits au service de la communauté et évidemment peuvent rendre service, y compris en cas de crise comme aujourd'hui de la pandémie.
Vous avez parlé donc de faire en sorte qu'on puisse avoir des accès simultanés, 500, 1000, etc. Je vais juste vous demander combien de temps ça vous a pris de mettre en place ce dispositif, parce que là on parle d'une affaire de 2 mois peut-être au maximum. Et au niveau personnel, en coût humain, combien de personnel vous avez mobilisé ? Et dernier point, on a beaucoup parlé vous avez mentionné PowerPoint, etc. Il y a des tas de disciplines, je pense à la philosophie, ou je sais pas, où ce genre de choses est beaucoup plus dur. Donc je crois qu'il y a aussi un problème de captation. Enfin, tout ça est quand même très divers en fonction des disciplines.
Alors pour la mise en place de tout ça, bon, comme je le disais, ça fait partie de notre schéma directeur. Donc on est parti, j'irais plutôt en décembre dernier. On a accéléré, c'est vrai, au mois de mai. Le dispositif, c'est 4 ingénieurs système pour tout le dispositif. Et au niveau des moyens, c'est 10 euros par étudiant. C'est pas faisable en 2 mois.
Non, c'est pas faisable en 2 mois.
On serait pas là aujourd'hui. Si on nous disait, voilà, il faut démarrer. On a clairement anticipé dans une dynamique qui avait été souhaitée par le président et l'établissement.
J'avais une interrogation qui rejoint la question qui a été posée tout à l'heure. Les dispositifs de type distance, c'est... On en parle, il y a beaucoup d'expériences qui est de réalisation dans le domaine de la médecine, mais d'une part, je pense qu'il existe des dispositifs analogues qui ont été développés ailleurs, ça serait intéressant aussi de les connaître, et ça serait également intéressant de savoir si dans la salle, de tels dispositifs ont été mis en place dans des formations de droit, littéraire, etc., pour qu'on puisse aussi partager une expérience qui ne soit pas uniquement l'expérience du domaine de la médecine. Donc c'est un appel à la salle pour avoir des témoignages de dispositifs analogues dans d'autres disciplines que la médecine.
À Paris Descartes, on ne fait pas que la médecine.
Oui, non.
il y a Matinfo qui a développé beaucoup d'outils.
Scientifiques, alors en dehors des disciplines scientifiques.
Il y a l'IUT dans toutes sortes de départements. Et puis il y a l'UFR STAPS qui a développé beaucoup d'outils.
Des disciplines scientifiques et des disciplines médecine et santé.
Je l'ai dit, on mixe.
Donc il ne se passe rien ailleurs.
Si, moi je l'ai dit, donc dans le cadre des sciences humaines, bon, je vais vous appeler à la salle, mais pour répondre à la question de monsieur, on ne fait loin que du PowerPoint, bien sûr. On n'en fait que dans les disciplines où effectivement c'est développé. On fait du podcast lorsque justement un cours n'est pas écrit, c'est le cas en histoire par exemple, le cours n'est pas surtout toujours écrit en histoire. Et le podcast, par contre, c'est aussi simple que ça. Audio, je l'ai dit, moi, je suis aussi partisan beaucoup de l'audio, mixé avec l'illustration. Par contre, on a un gigantesque vivier d'illustrations vidéo qui existe. On a beaucoup de choses dans Canalu et qui concernent les sciences humaines que nous, on s'évertue à exploiter, tout simplement en faisant fonctionner la plateforme Moodle dans sa fonction primitive, c'est-à-dire un scénario pédagogique. Donc ce qu'on s'évertue à enseigner donc aux enseignants, c'est pas tant de produire des ressources que d'utiliser correctement la plateforme Moodle pour scénariser leur pédagogie. Et donc d'introduire les objectifs de ce cours, de positionner derrière les ressources, etc. etc. Donc en général, ça c'est à la portée de tous les enseignements thématiques. Et après on travaille sur le multivarié, effectivement, sur l'ensemble des supports, avec une grande majorité de supports écrits, donc PDF dans un premier temps, que je m'efforce de faire passer dans une chaîne éditoriale depuis cette rentrée, de manière massive, en mobilisant les énergies. Moi, je dispose d'un financement à distance avec 6 éditeurs de cours à l'intérieur, donc des techniciens professionnels de la mise en ligne. Et donc, on essaie de travailler sur une médiatisation accrue des supports existants. Mais voilà, mais bon, il y a toutes les possibilités. Le podcast est très heureux pour ça, en termes de captation. Ben, je vous l'ai dit qu'il y avait 4 services qui étaient mobilisés, donc c'est les personnels concernés. La seule chose, c'est qu'on les fait travailler ensemble sur le même objectif. Donc, jusqu'à présent, ils répondent à une demande. Maintenant, ils réalisent un objectif qui est le service numérique pédagogique de l'université. Ils travaillent ensemble, ils sont orchestrés pour travailler de manière complémentaire. Voilà.
Oui. Une question. Donc, il y a suffisamment de gens. Une question. Et aussi une réaction. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on parle beaucoup de pédagogie plutôt pour les étudiants? Il y a véritablement une question à se poser, c'est de pédagogie vis-à-vis des enseignants. Absolument. Très forte, parce que beaucoup d'enseignants qui sont pas de mauvaise volonté, mais qui sont pas technophiles, vous leur parlez de tous les systèmes, d'Okeo, tout ça, Moodle, ils en ont rien à cirer, et ils se disent, c'est quoi tout ça? Comment je vais faire mon cours avec? De manière simple, de manière pragmatique, demain, il y a la fac est fermée, je dois mettre mon cours en ligne. Comment je fais? Et je ne sais pas le faire.
Je propose qu'on traite ces questions-là sujet d'après, dans la table ronde suivante. Moi, je reste encore un peu insatisfait sur une question qui a été posée dans les établissements, on va dire, de moindre taille. Comment on fait pour non pas avoir une montée en charge qui permette de satisfaire tous les étudiants, mais en tout cas faire mieux que ce qui existe aujourd'hui? Donc, j'attends peut-être quelques réponses. Il y a aussi des outils dont on n'a pas parlé. Sur les plateformes, est-ce qu'il y a des contraintes techniques particulières ou pas? Il y a des outils de visioconférence, des outils de classe virtuelle, dont certains ont dit on ne peut pas forcément là passer à une généralisation, on va plutôt le garder pour les équipes pédagogiques, voire les équipes de gouvernance. Donc il y a un certain nombre d'outils de services pédagogiques avec ces outils qui peuvent être intéressants de discuter entre nous. Donc en restant sur ce table ronde d'infrastructure service, si on pouvait aborder aussi ces questions. Bon, je sais bien, on a une construction un peu artificielle, je le reconnais très, très volontiers. Il y a beaucoup d'interférences entre nos sujets. On essaie là de séparer les différentes choses, l'accompagnement des étudiants, des enseignants, les ressources. On voit bien qu'on aborde toutes ces questions-là, mais on va essayer, autant que faire se peut, de pas tout traiter en même temps.
Jean-Pierre Pécuchet, INSA de Rouen. Pour les établissements de taille moyenne, justement, que vous évoquez, qui manquent peut-être de moyens humains et de temps, l'externalisation d'un certain nombre de services me semble intéressant. On a évoqué l'externalisation du service de courrier électronique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur les conditions, sur le titulaire du marché? Est-ce qu'il y a d'autres expériences d'externalisation pour d'autres types de services?
Donc l'externalisation de la messagerie, c'est suite à un accord que nous avons passé avec Microsoft au niveau de l'établissement, un partenariat. Et dans ce partenariat, un des volets, c'est la messagerie au travers de la plateforme Live at Edu, donc avec tous les outils de messagerie, le contact, l'agenda partagé, etc. Dans une plateforme où on peut avoir des adresses à vie, des adresses qui restent at Paris Descartes, aucune publicité sur les écrans, aucun logo Microsoft. Tout est personnalisé à Paris Descartes. Et le tout repose sur notre annuaire d'établissement. C'est intégré complètement dans le système d'information.
Oui, Vincent Dalméda, je travaille au...
Le coût?
Zéro. Zéro, c'est un service. C'est un service qu'offre Microsoft dans le cadre du partenariat que nous avons avec eux. Il y a d'autres compagnies, je ne veux pas faire de... Google offre exactement le même service à coût zéro. Bon, après, faut voir la sécurité, faut voir les contrats. Il y a des choses un peu différentes chez les différents partenaires, mais le coût est zéro. Je n'aurais pas pu, dans le laps de temps, compte tenu de l'investissement qu'on a fait sur le matériel, investir encore sur la messagerie. De toute façon, mes ingénieurs étaient déjà mobilisés sur toute la partie infrastructure, nous ne pouvions pas, dans le même temps, parce que nous avions une messagerie qui n'était pas très bonne, qui est ancienne, nous ne pouvions pas garantir le service de messagerie. Or, nous pensons que dans une période de pandémie, la messagerie sera quand même l'outil essentiel et que c'est l'outil que tout le monde sait utiliser. Il n'y a pas besoin de X formation, et je rejoins, dans l'urgence, on ne va pas former tous les enseignants à utiliser telle ou telle plateforme, quelle qu'elle soit, aussi simple qu'elle soit. La messagerie, par contre, oui, tout le monde s'est déposé un document, tout le monde s'est envoyé un document à X personnes. Et c'est là-dessus qu'on a mis notre point, parce que pour une période courte, c'est ce qui va être essentiel pour permettre à un maximum de personnes d'assurer la continuité.
Donc je reprends la parole. Vincent Dalmeda, je travaille au CNAM Paris et donc je voulais répondre à madame qui est au premier rang au sujet des différents enseignements. Donc le CNAM multidisciplinaire et utilise les techniques de diffusion de vidéos, enregistre, pour ce qui concerne le CNAM Paris, je pourrais dire aux alentours de 80 heures hebdomadaires de cours. Et sur ces 80 heures, il y en a, je dirais, une grosse moitié qui sont quand même dans le milieu scientifique, informatique, chimie, génie civil, etc. Et puis, il y a quand même des cours de droit des affaires, droit social ou de management qui utilisent ces techniques-là depuis maintenant une dizaine d'années. Et les profs s'y sont mis, ils reviennent régulièrement et réutilisent les systèmes que nous avons mis en place. Voilà.
Pascal Higelin, Université d'Orléans. On a parlé tout à l'heure des 10 à 20% d'étudiants qui n'avaient peut-être pas de PC ou pas d'accès Internet facile, et donc il ne faut pas les oublier. On a parlé de kiosques de prêt de PC, de parcs de clés 3G. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez dimensionné ces parcs ?
Alors, les liaisons VPN, le parc de PC, les clés 3G, c'est pour les enseignants, et les BIOS pour la continuité du service. On n'a pas oublié les étudiants dans le dispositif. D'abord, il y a beaucoup de bornes Wi-Fi dans l'établissement, beaucoup d'endroits où ils peuvent accéder. Nous sommes en train de négocier avec deux constructeurs des prix encore plus privilégiés pendant une période très courte pour l'achat de portables. Ce n'est pas signé, je ne donne pas les noms aujourd'hui. Et dans ce qu'on a également présenté, la solution de la clé AgoraBox est quelque chose de très intéressant pour les étudiants. Donc on va développer ce concept qui vient de deux étudiants de Paris 6, qui nous paraît très intéressant pour des étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et ils peuvent utiliser cette clé dans n'importe quel cybercafé, lieu où il y a un ordinateur à disposition. Et ils ont leur dossier, leur document, leur logiciel, leur connexion à l'ENT.
Bonjour, Manuel Majada.
À partir de 25 euros. À partir de 25 euros, c'est une solution virtualisée, donc sous la base de Linux. Et de fait, ça permet de démarrer donc son ENT depuis n'importe quelle ressource informatique à base de processeur Intel, que ce soit un PC, un vieux PC, un très vieux PC, un Mac. Donc c'est toute l'élégance de la situation. En réel nomadisme, on a passé le cap du stockage. Là, on est sur la machine, sur la clé.
Bonjour, Manuel Majada, Université Technologique Compiègne. Je voulais revenir sur un élément qui me semblait préalable à la définition de l'architecture technique et de l'infrastructure et des services, qui était déjà le cahier des charges. Il m'a semblé entendre deux visions un peu différentes, une vision un peu courte et une vision alternative pédagogique, qui sont extrêmement différenciées. Et là, je pense qu'il serait vraiment important pour nous de bien cibler d'abord cette volonté politique qu'aura l'établissement et sa possibilité réelle de le faire, c'est-à-dire offrir une alternative pédagogique, c'est possible sûrement à moindre coût. Offrir des cours à distance avec l'ensemble de l'accompagnement pédagogique, c'est sûrement possible pour certains, sûrement très difficile pour d'autres. Donc c'est bien de redevenir sur ce cahier des charges. Donc, là, je voudrais revenir sur vos expériences. Est-ce que vous avez reçu un cahier des charges relativement clair par rapport à cette mise en œuvre ?
Ça rentre dans un schéma directeur. Nous avons mis en place, il y a 2 ans, un schéma directeur des systèmes d'information dans lequel il y a l'ETIS. Et ce schéma directeur a été revu à l'occasion du contrat quadriennal. Et c'est un document qui complète le contrat quadriennal de l'établissement. Donc ça repose sur toute une politique d'établissement qui doit s'étendre sur les 4 années qui viennent avec développement des TIS. On a prévu de développer le nombre d'ingénieurs pédagogiques, etc., puisqu'on est très faible à ce niveau-là. Et ça, c'est inscrit dans le quadriennal.
Alors, en ce qui nous concerne, effectivement, nous avons reçu au niveau de la direction des TIS une commande claire, donc de mettre en œuvre l'organisation nécessaire pour accueillir, guider et mettre en œuvre donc les TIPODs dont j'ai parlé, c'est-à-dire donc des ressources donc d'activité dans le cadre d'une interruption de service due à la pandémie. Donc on n'est pas, j'ai insisté sur une demande de production massive de ressources, même si on a une base déjà assez solide, mais donc c'était simplement d'organiser et d'orchestrer ça. Donc pour cela, donc on a mis en place une organisation qui a été décidée donc par l'établissement au sein des services TIS, donc qui est une cellule d'appui composée de moniteurs TIS, de correspondants donc des 4 services que j'ai cités précédemment, donc qui mobilisent en particulier des éditeurs de cours, c'est-à-dire des professionnels techniques qui ont l'habitude de mettre en ligne les cours et accompagner les enseignants. Donc les responsables de la mise en place des ressources numériques documentaires du SCD. Dans tous les cas, dans le contexte, ça a été simplement, mais c'est le plus important, de mobiliser pour la même action les personnes qui étaient déjà en contact avec les enseignants, qui individuellement faisaient une action, un des éléments de la mise en ligne de la ressource. Donc là, on les a simplement réunis ensemble pour faire que, au moment X, le tout soit en ligne. Voilà. Mais les TIPODs, c'est pas des cours, hein. C'est des activités pédagogiques d'occupation pendant l'interruption. Voilà. Donc c'est précis, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réticence, c'est pour ça que ça s'est bien passé en conseil et que maintenant, donc, les choses se déroulent sans accroc. Mais encore une fois, ça s'est pas fait au dernier moment. C'est une réflexion qui a pris plusieurs mois, hein, qui a été discutée, votée. Pardon.
Oui. Alain Rivollet de l'ENS Cachan. Donc, si je comprends bien, soit on est déjà prêt parce qu'on a tout anticipé quelques années avant et on n'a rien à faire. Non, soit on n'a rien fait et il nous faut 3 mois, donc c'est pas la peine de commencer.
Non.
À part pour anticiper les ENT à venir. Mais concrètement, pour le plan pandémie et dans l'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire?
S'inspirer de ce qui est fait dans les autres établissements, puisqu'on est une communauté et qu'on est en civilisé, que les gens aient un transfert de compétences, une aide, etc. Surtout dans ces cas de figure.
Je dirais, comme l'a dit tout à l'heure le directeur général, le plan de pandémie, c'est un extraordinaire levier pour faire avancer ce dossier. Oui. Ça nous a permis de faire des choses qu'on aurait peut-être mis un an et demi à faire et qu'on a pu réaliser, dans des conditions certes pas faciles, en 3-4 mois. Donc, si derrière, ça s'accompagne d'une volonté politique, c'est un levier extraordinaire pour bouger beaucoup de choses.
Alors, évidemment, il y a plusieurs, pour répondre très rapidement, le temps des infrastructures est évidemment un peu plus long que le temps de l'accompagnement des collègues qui, avec une conscience professionnelle qui les honore, iront très facilement, je pense, s'il y a le risque de pandémie, à la mise en ligne d'un certain nombre d'éléments. Mais on va en parler dans quelques instants. Peut-être une ou deux dernières questions sur le premier thème de notre journée.
Pour les TIPODs, là, c'est vraiment très intéressant, je trouve, comme démarche entre ceux qui ont déjà mis les cours en ligne et ceux qui n'ont rien fait. Plutôt que de mettre des ressources et de dire les étudiants après se débrouillent, je trouve que l'idée du TIPOD, et donc je voudrais savoir comment vous les avez mis en ligne. Est-ce que c'est donc vos qui les mettent en ligne ou si vous confiez aux enseignants sur Moodle un accès où ils peuvent déposer et mettre en place le TIPOD?
C'est très simple, les deux.
Hein, ben donc, ceux en fait, qui sont autonomes.
Il y a ceux qui sont autonomes. Donc, je vous l'ai dit, ils ont une guide en ligne, une guidance en ligne qui permet de le faire. Donc, ceux qui savent le faire, mais le font tout seuls, hein. On ne les empêche pas. Et puis, sinon, on le fait à leur place.
Mais ils ont un modèle, template.
Ils ont un canevas précis.
D'accord. Ça, c'est super. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment une initiative vraiment très intéressante. Parce que ça permet d'être entre le dépôt de ressources et puis les cours plus complets. Sinon, au témoignage pour les classes virtuelles, nous, on l'utilise depuis une dizaine d'années. Mais en fait, c'était pour des cours avec le Canada, parce qu'on avait des étudiants qui partageaient des cours. Et donc là, étonnamment, avec la pandémie, on a l'intention d'en mettre quelques-uns. Mais bon, ça va être très limité, parce qu'on ne peut pas avoir des accès simultanés pour tous les enseignants en même temps. Voilà.
Je voudrais poser une dernière question, puisque là, on arrive à la fin de du premier thème. Moi, c'est pour l'Université Paris 5 qui a externalisé la messagerie électronique et qui utilise l'annuaire de l'établissement. Tous les aspects CNIL, sécurité, c'est-à-dire que Jean Dupont à Paris 5, vous n'allez pas l'envoyer à Microsoft en tant que Jean Dupont. C'est ça ma question.
Non, ça reste, tout ceci reste interne à l'établissement. D'ailleurs, on travaille encore sur un document avec la CNIL pour terminer la validation de la chose. On est site expérimental et de ce fait autorisé pour faire ça. On n'a pas oublié tous les aspects juridiques dans notre établissement. C'est pas possible. Donc, tout le LDAP reste à l'intérieur de l'établissement et est entièrement managé par l'équipe technique de l'établissement. Ça, c'était indispensable, sinon on ne sortait pas, on ne le faisait pas. Et je précise que pour le moment, ce n'est que pour les étudiants. Il y aura une possibilité pour les personnels de l'établissement d'opter pour ce dispositif, mais ce sera volontaire. C'est eux qui décideront dans leur ENT, je choisis comme outil de messagerie cet outil-là, plutôt que l'outil actuel.
Donc là, on arrive, il faut qu'on s'arrête. Merci beaucoup pour ces témoignages. Merci aux intervenants et puis bonne continuation.
Merci Radija, merci Monsieur Cadet, Monsieur De Carnet et Monsieur Castec. On passe au deuxième thème qu'on a déjà un petit peu anticipé avec les questions de l'accompagnement des enseignants. Nous avons deux séquences un petit peu longues, donc je vous remercie en tout cas de votre attention sur ces deux grandes plages horaires de 3 heures ce matin et cet après-midi. J'ai le plaisir d'accueillir sous l'animation de Monsieur Augier de l'Université de La Rochelle, Monsieur Bansard de Sophia Antipolis Nice, et Monsieur Dozière de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Monsieur Auger va donc être l'animateur. Pour simplement donner les grands thèmes de cette table ronde, je voudrais simplement évoquer ce que nous avons cité il y a quelques instants, l'existence de tutoriels, l'existence de hotline pour les enseignants, le fait que l'on numérise peut-être des documents. Certains, dans les réponses des établissements, nous avaient donné ce type de solution. Il y a un certain nombre d'établissements qui ont aussi une politique très autoritaire, qui ont nommé autoritairement des enseignants, personnels référents ou responsables de la mise en ligne de cours, de documents dans leurs composantes ou dans leur unité de formation. Et puis, quelque chose qui a été évoqué il y a quelques instants, c'est la mobilisation d'emplois étudiants aussi pour aider les enseignants. Voilà quelques-unes des pistes qui peuvent être exploitées, qui peuvent être utilisées assez rapidement par vous-même dans vos établissements pour aider les enseignants dont on sait bien qu'ils n'iront quand même pas tous vers le numérique dans les deux mois qui suivent. Monsieur Augier, je vous laisse l'animation de ce...
Merci Monsieur Capul, c'est en train de se préparer. Je vais juste dire quelques mots avant de démarrer. Hop là. Bon, je suis en charge de l'animation de cette table ronde. Merci à la SDTIS de m'avoir proposé cette charge. Je vais essayer de faire de mon mieux. J'ai proposé, justement, avant d'introduire le sujet, de poser quelques jalons par rapport aux éléments qui pourraient être débattus pendant cette séance. Donc, il s'agit de parler de l'accompagnement des enseignants, qui est un sujet qui a déjà été un peu abordé tout à l'heure au travers des échanges dans la première table ronde, parce qu'effectivement, il n'y a pas rupture brutale entre les infrastructures, les services et les hommes. Et donc, la question qui va se poser pour nous, enfin, voilà les points que j'aimerais au moins avoir débattus ce matin, c'est quelle stratégie globale pour essayer de développer une politique d'accompagnement des enseignants. Alors on aura une première réponse au travers des infrastructures des services lors de la séance de la session précédente. La question majeure qui me semble se poser, c'est quelle stratégie pour qu'elle soit globale, pour couvrir tout le spectre des enseignants-chercheurs. Je pense que beaucoup d'établissements ont des services, ont des initiatives, mais dans quelle mesure elles sont largement déployées à toutes les UFR, dans toutes les disciplines, et je pense que c'est une question importante. Pour ma part, sur La Rochelle, nous avons mis en place une plateforme d'observation des usages, et on observe une très très grande hétérogénéité dans les usages, et comme le disait Madame Fabre-Guet tout à l'heure, effectivement, les sciences du vivant, les sciences dures sont beaucoup plus usagées de ce genre de technologie, et donc il y a certaines communautés qu'il est certainement important d'accompagner un peu plus fortement. Il y a des maîtrises technologiques hétérogènes, comme le disait Monsieur Benhamou tout à l'heure, effectivement, je ne sais pas déposer mon document sur Moodle, comment je fais, donc concrètement, comment accompagner les enseignants dans un plan un peu d'urgence, puisque là, il y a quand même, on ne sait jamais dans combien de temps ça va, on ne sait pas dans combien de temps ça va nous tomber dessus, et donc comment gérer cette problématique-là. Il y a toutes les problématiques qui sont centrales dans cette affaire, c'est les freins culturels, avec des réflexions sur la réforme sur le statut d'enseignant-chercheur, comment valoriser l'investissement des hommes dans ces affaires-là. Je pense que derrière cette question qu'on vit aujourd'hui, il y a aussi cette question, et c'est probablement une opportunité pour accélérer les réflexions sur ce sujet. Donc ça, c'est un ensemble de points sur la manière de quelle stratégie globale. Ensuite, il y a aussi des questions qui ont été évoquées tout à l'heure sur la gestion des documents qui ne sont pas numérisés, qui ne sont pas au format numérique aujourd'hui. Des solutions de podcast ont été évoquées, mais peut-on tout podcaster? Avons-nous les moyens en si peu de temps de mettre en place du podcast dans toutes les salles de TD? Est-ce qu'il n'y a pas à côté de ça des processus de dématérialisation à réfléchir? Ça, c'est une question. Je ne sais pas si les collègues vont en parler. On n'a pas eu le temps d'échanger sur ce sujet, mais voilà, c'est un des points qui me semblait important d'aborder. Au-delà de ces aspects diffusion unidirectionnelle des enseignants vers les étudiants, il me semble qu'il est important de se poser la question de l'interactivité au cas où la pandémie était amenée à durer. Effectivement, on peut envisager de diffuser du contenu dans un sens. On peut envisager de donner des devoirs aux étudiants dans un sens. Mais quel niveau d'interactivité peut-on avoir avec nos étudiants lorsqu'ils sont à distance et comment est-ce qu'on peut les faire progresser avec des moyens distanciels? En tout cas, ça me semble être une opportunité, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, et en particulier par le directeur général ce matin, une opportunité pour accélérer les réflexions sur d'autres modalités, d'autres manières de s'adresser à nos publics, éventuellement d'élargir nos publics. Il y a des tas de gens qui sont probablement des futurs clients de ces technologies, hein, les gens en reprise d'études, les handicapés, les sportifs de haut niveau, qui aujourd'hui ont peut-être quelques difficultés pour accéder à nos universités. Et donc, il me semble intéressant d'accélérer les réflexions sur ce sujet. Et puis la question centrale qui était évoquée par Monsieur Capul ce matin, c'est effectivement comment s'assurer que tout ce qui est fait aujourd'hui puisse être mutualisé au plan national, à la fois sur le plan des pratiques, des échanges d'expériences et autres, et aussi sur le plan des contenus. Je pense que la France regorge de richesses en matière de contenu. Il y a les UNT, c'est une première approche, mais il y a peut-être d'autres protocoles possibles pour partager davantage de choses. Voilà, donc pour... engager le débat. Nous avons deux exposés qui vont être présentés par des collègues. C'est Christophe qui démarre. Voilà. Donc Christophe Bansard de la service TIS de l'université de Nice Sophia Antipolis, et ensuite Monsieur Laurent Dosière qui vient de l'université de Pau et des Pays de la Dour. Donc on commence par Christophe. Je te laisse la place. Ouais. Ça sera plus facile.
Donc bonjour à tous, Christophe Bansard, Université de Nice-Sophia Antipolis, responsable TIS. J'ai essayé de faire court et concis et le plus pratique possible. Donc quel type d'accompagnement en cas de fermeture de l'établissement? Alors rapidement, l'Université de Nice, c'est à peu près 27 000 étudiants, plus d'un millier d'enseignants-chercheurs, à peu près la même chose en personnel IATOS et plus de 60 laboratoires mixtes. Donc une des particularités, c'est l'éclatement sur de nombreux sites sur tout le territoire des Alpes-Maritimes. Donc ça fait 7 sites principaux avec 20 implantations universitaires sur le département. Donc c'est complexe à gérer. Alors d'un point de vue, on va dire TIS, hein, numérique pour l'enseignement, On est parti d'un constat il y a 2 ans, et le contexte aujourd'hui, le dispositif aujourd'hui, il est assez simple. On était parti d'une nébuleuse offrant un certain nombre de services. Donc parmi celles-ci, Apogée, qui est le principal outil de gestion administrative des enseignements. C'est là que les étudiants sont inscrits, c'est là qu'on sait dans quelles unités d'enseignement ils sont inscrits, c'est là qu'on sait quelles unités d'enseignement libres ils suivent, c'est là normalement qu'on sait aussi où les enseignants interviennent. Un autre dispositif qu'on avait expérimenté dans le cadre d'un enseignement à distance, qui sont utilisés par d'autres universités, Adobe Connect, donc qui est un outil de web conférence, également du podcast, WIMS pour tout ce qui est exercice interactif en ligne et contrôle continu, et puis un bureau virtuel, donc une messagerie qui, pour la région PACA, est mutualisée par 5 universités, donc qui doit représenter un peu plus de 100 000 étudiants qui disposent d'une messagerie à travers un bureau virtuel mutualisé. Et puis en bas, 2 petites icônes qui sont des outils, on va dire, d'enregistrement disponibles soit au sein des salles qui sont équipées, soit des terminaux mobiles type iPod enregistreur qu'on peut prêter aux enseignants. Ce qui nous manquait principalement, c'était un élément fédérateur que l'on a appelé Jalon, qui est en fait connecté à l'ensemble de ces dispositifs. Et l'idée était de rendre ça extrêmement simple pour l'enseignant, c'est-à-dire je me connecte à travers ce hub et j'ai accès à l'ensemble de ces outils que je peux utiliser dans le cadre de mes enseignements. Et surtout lié principalement à Apogée, puisque c'est ici que se trouve l'information d'administration, on va dire, de la pédagogie. Alors en ce qui concerne, je ne sais pas si j'ai internet, donc si je l'ai, je vous ferai une petite démonstration de 5 minutes, sinon j'ai quand même préparé en secours quelques copies d'écran. Les préconisations pédagogiques d'abord que nous avons fait, alors tout à l'heure il y a eu 2 modèles intéressants qui étaient présentés, l'un sur un modèle, l'analogie finalement du présentiel, et puis l'autre sur une démarche innovante avec les tipodes. Nous sommes partis plutôt sur une analogie complète avec ce qui se fait en présentiel. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la continuité des cours magistraux? Parce que là, on part du principe où l'université ferme du jour au lendemain ses portes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des heures qui étaient prévues en face à face avec les étudiants en cours magistral? Eh bien, différents cas se présentent. Le premier, le plus complexe, c'est que l'enseignant ne dispose d'aucun document numérique. Et donc là, je dirais que ça, malheureusement, ça va être le plus compliqué à gérer. Et qu'il va falloir faire des coupes, peut-être des coupes sombres sur certains supports. Exemple, équations mathématiques, démonstrations mathématiques, schéma très évolué qui était fait au tableau, sur tableau ardoise. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire ça à distance? Et ben là, c'est, je dirais, quasiment mission impossible. Alors on a des débuts de piste, hein, on a des possibilités, des solutions, mais clairement, si du jour au lendemain, les enseignants se retrouvent chez eux, avec les outils à disposition, je pense qu'ils ne seront pas capables, pour la majorité, de faire l'équivalent avec des outils. Cas plus facile, l'enseignant dispose déjà d'un support numérique, ouf, donc là, diffusion à travers un PDF, diffusion à travers OpenOffice. Ensuite, dispositif un peu plus évolué, PowerPoint sonorisé, donc ça on le fait encore à travers Adobe Connect, c'est à mon sens, je dirais, le juste milieu, et c'est simple à utiliser, surtout que nous l'avons simplifié au maximum, à outrance, au sein du hub pédagogique. Du podcast, alors le podcast, différentes possibilités, je l'expliquerai un peu plus tout à l'heure. Et puis ensuite, le besoin de diffuser ces documents pédagogique, donc là encore, ça se passe au sein du hub pédagogique. Donc ce qu'on voulait, c'était en 2 clics, je dépose un document dans un espace et je le diffuse à mes étudiants de mon unité d'enseignement. Et ça, je dois le faire en 2 clics, allez, 3 clics, pas plus. Et je m'appuie sur Apogée. Ensuite, pour la continuité des travaux dirigés, des travaux pratiques. Donc ça, ce sont les préconisations. Ensuite, je parlerai de ce qu'un servitiste peut avoir à participer là-dedans, à faire là-dedans. Donc la production de documents numériques, donc ça renvoie finalement aux préconisations dans les cours magistraux. Le tutorat, un forum associé au cours, tout simplement. Un fil de discussion par cours, permettant de recueillir les questions des élèves. Pour les travaux pratiques, là encore, pratiquement mission impossible en ce qui concerne les sciences, surtout. Refaire un travaux pratique en chimie à distance, c'est pas évident, mais heureusement, des simulations ont été construites, très évoluées, donc ils sont disponibles au sein des universités numériques thématiques. Encore faut-il que les enseignants aient connaissance de ça, de ces ressources, et qu'ils sachent comment les prescrire à leurs étudiants. Le contrôle continu maintenant. Donc là, deux dispositifs, une boîte de dépôt, les étudiants remettent dans le casier de l'enseignant leurs devoirs, et deuxième dispositif, WIMS, qui est un dispositif plus automatique, permettant de faire du contrôle continu. Voici les préconisations qui sont des premières pistes, hein, qui ne sont pas encore complètement contractualisées. Maintenant, l'accompagnement de ces enseignants. Un premier dispositif, information en temps réel. Donc là, il s'agit vraiment situation d'urgence. Donc c'est un canal de diffusion qui vit au fil du temps et de l'actualité. Donc qu'est-ce qui se passe à l'université? Est-ce que cet outil a tenu la charge? Est-ce que cet outil est tombé? Si oui, comment? Si oui, quand est-ce qu'il sera remis en place? Et dans ce cas, quelle solution alternative? Donc il s'agit vraiment d'être extrêmement réactif à travers ce canal. Et je pense qu'il faut un seul canal de diffusion en ce qui concerne en tout cas la continuité pédagogique. Donc ce fil d'actualité répéterait également les bonnes pratiques et puis surtout les services à disposition des enseignants, donc une information continue, répétitive. Et puis aussi les problèmes techniques inopinés qui interviennent pour ne pas laisser le public, à la fois étudiant et enseignant, dans une situation de méconnaissance ou de non-connaissance de ce qui se passe, de ce qui arrive. Donc les solutions alternatives, si vous voulez, on pourra en parler. J'en ai imaginé quelques-unes, mais alors c'est simplement encore... des idées. L'assistance individualisée maintenant des enseignants. Donc là, on s'appuie sur celles déjà existantes. Hein. D'abord en présentiel, un atelier pédagogique, c'est un lieu, donc à voir encore s'il sera possible de l'ouvrir, mais un espace dans lequel nous accueillons les enseignants pour les former à l'utilisation d'outils. Donc il est ouvert, je veux dire, pour l'instant tous les après-midi, il serait ouvert tous les jours avec un agent des TIS mobilisé en permanence. Avec des rotations de permanence, pourquoi pas, pour recevoir les enseignants et pour les aider à suivre ces préconisations. Dans cet atelier pédagogique, du matériel adéquat, un tableau blanc interactif et du podcast, pour répondre au premier problème qui est par exemple comment je fais pour transcrire une démonstration mathématique au tableau. Maintenant, l'assistance individualisée à distance. L'email. Donc ça, je crois que beaucoup d'universités utilisent le helpdesk, je pense qu'on y fera beaucoup appel. Et Adobe Connect, encore une fois, décidément, c'est un outil central, mais pour la prise de contrôle à distance. Donc, l'agent des TIS est chez lui, avec une connexion Internet, l'enseignant est chez lui, et à distance, on prend le contrôle de l'ordinateur pour effectuer les manipulations et lui montrer. C'est de la formation individualisée, c'est coûteux en temps, mais je pense que c'est extrêmement efficace. Surtout, ça nécessite aucun logiciel spécifique, ça marche sur Mac, sur PC, dans n'importe quelle circonstance et condition réseau. Ensuite, les formations de groupe. Donc là, je pensais donc construire une espèce de formation ouverte à distance dans laquelle les enseignants viendraient au fil du temps, dans laquelle on répéterait toujours les mêmes choses, un petit peu comme un atelier ouvert où il y a toujours un formateur qui est présent pour présenter les outils de production, l'outil de diffusion qui est le hub pédagogique, les outils de tutorat, donc qui se limitent à du forum, mais enfin, bon, encore faut-il en avoir connaissance. Et des outils d'évaluation pour répondre aux préconisations. Et puis, auto-formation par la production de screencasts, je dirais, si on a le temps. Ça veut dire que si les questions récurrentes se répètent souvent, nous produirons une série de screencasts qu'on a déjà commencé à faire, mais pour expliquer rapidement par un petit film écran comment faire. Alors, je vais rapidement faire une démonstration de quelques minutes, enfin j'espère, s'il y a Internet, sinon ça sera pour une prochaine fois. Je ne sais pas s'il y a Firefox. Non. Ça commence mal. Alors, sans Firefox, j'espère que tout va bien aller. C'est une situation de crise, hein, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Donc on a essayé de faire un peu de métrologie, de mesurer la montée en charge possible. Donc, en fait, alors il y a des petits problèmes d'affichage, mais qui normalement ne sont pas gênants. Donc là, je me place comme enseignant, et je vais, dans un premier temps... Pardon, j'ai le clic sur le... Hop. Est-ce que je peux installer Firefox ou pas ? C'est une des préconisations que nous ferons. Bref. Donc je vous montre rapidement ici. Donc ici, je crée un fichier, donc je dépose un fichier. Ça, c'est rien de plus classique. J'en ai déjà un certain nombre, donc je ne vais pas le refaire. Et puis, je vais surtout vous montrer le dispositif Adobe Connect, comment, la manière dont nous l'avons intégré. Ici, nous l'avons appelé présentation sonorisée. Et dans son espace, l'enseignant peut créer une présentation sonorisée. Créer. Alors, c'est bien. Donc là, en fait, on lui lance un environnement Adobe Connect préconfiguré, dans lequel, oui. Absolument. Alors, c'est reparti. Voilà. Donc ici, je me retrouve dans un petit espace dans lequel je dispose d'un guide qui m'explique comment enregistrer une présentation. Donc je vais rapidement faire avec une présentation audio. Voilà, je peux déposer au sein, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je peux déclencher ici l'enregistrement. Donc je vais tout ce que je vais dire ici. Enregistrement, cours, 10 minutes, ok. Et donc, à partir de maintenant, l'ensemble des actions que je vais faire et quand je vais parler ici, tout sera enregistré, associé au PowerPoint. Dès que j'ai terminé, j'arrête l'enregistrement, voilà, j'ai fini d'utiliser l'outil d'enregistrement, j'actualise la page, ça simplement, donc le hub pédagogique qui reprend en compte les modifications, et donc je vais disposer maintenant enregistrement court 10 minutes ici, qui fait 10 secondes, que je pourrais visionner, découper, etc. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, et je finirai là-dessus, en termes de cours, je vais créer un cours de démo. Et je vais l'associer, je vais d'abord y mettre donc mon enregistrement, bien entendu, et donc démo, il doit être... Démo. Voilà. Et je peux y associer, bien entendu, un support de cours, un support, ce support peut être une présentation sonorisée. La présentation sonorisée que je viens de faire. Donc là, je fais ça... J'attache. Donc, une fois que j'ai donc construit mes contenus, mes enregistrements, mes supports, mes contenus, je construis mon cours de cette manière, en y associant l'ensemble des éléments. Donc, un élément peut être réutilisé dans différents cours. Et surtout, à la fin, ce dont je vous expliquais, donc de diffuser en deux clics, ici, les unités d'enseignement, je peux rechercher directement dans les diplômes de l'université. Donc, si je cherche licence, je vais en avoir un certain nombre, mais c'est simplement pour vous montrer... Il y a peut-être trop de licences. Hein, ouais, j'ai fait entrer. On va chercher plus précisément le titre d'une licence. Voilà, donc licence professionnelle, image, par exemple, j'ai 4 étudiants actuellement inscrits. Alors si je veux savoir, je ne veux pas exactement donner à tous les étudiants, mais simplement à certains étudiants, je décide de lister les unités d'enseignement de ce diplôme. Et ici, j'ai les titres et les intitulés des diplômes de l'université, donc par exemple présentation des données multimédia. Je coche ça, je peux aussi définir des groupes, bien entendu, dans l'apogée, hein. Et puis j'attache. À partir de ce moment-là, tout ce qui sera dans ce cours est diffusé aux étudiants, donc ça veut dire qu'on est dans un environnement protégé, serein. Et ensuite, dans mes étudiants, je veux retrouver l'unité d'enseignement avec mes étudiants, qui est ici, présentation des données multimédia. Donc en fait, j'ai une première logique qui est je construis mes contenus, deuxième logique qui est je les scénarise dans un cours, et troisième logique qui est je suis mes étudiants individuellement, et voilà, donc j'ai la liste, les trombinoscopes, etc., tout ça qui viennent des cartes. Voilà. Donc désolé pour les problèmes d'affichage, hein, j'ai fait au plus vite, normalement c'est plus joli que ça. Voilà, je vous remercie.
Merci Christophe. Nous passons à l'exposé suivant, donc, qui s'est présenté par M. Laurent Dosière, chargé de mission TIC à l'Université de Pau et des Pays de la Dour.
Bonjour à tous. Lorsque Catherine Fabreguet m'a demandé d'intervenir ce matin, je me suis un peu demandé pourquoi ça pouvait avoir du sens de présenter l'expérience de l'EPPA, qui, suite aux différentes présentations de ce matin, me paraît effectivement assez light. Mais c'est peut-être aussi une façon de montrer qu'une toute petite équipe, le CRATIS, dont je suis le directeur, qui est le service TICE de l'université, comporte en réalité un ingénieur et une technicienne, donc c'est pas beaucoup de monde. Je suis à la fois enseignant, directeur du CRATI, chargé de mission TIC, donc je suis pas à 100% sur ces missions-là. Et on a essayé de répondre minimalement, light, d'une façon light, aux problématiques qui se sont posées. Il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, je vais pas revenir dessus. Et juste pour vous montrer comment on peut, à tout petit coup humain, et faire quelque chose, même si je suis pas complètement sûr que ça puisse fonctionner parfaitement en cas d'arrêt immédiat demain matin de nos services. Je crois que là, on va avoir quelques soucis. Alors, nous sommes une université, pour ceux qui ne la connaissent pas, pluridisciplinaire, multisciple, béarnaise, basque, landaise, et même avec un tout petit boost au Midi-Pyrénées, puisque nos STAPS sont du côté de l'autre côté de la frontière de la région. Donc on a toutes les problématiques classiques de l'enseignement dans ce genre d'université. Nous sommes une petite université, 11 000 étudiants. Il y a à peu près 700 enseignants, donc c'est pas non plus très énorme. Voilà donc... rapidement brossé, je vous présente ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que de toute façon, comme on l'a déjà dit plusieurs fois aujourd'hui, si on part de zéro, ben on va pas aller bien loin le jour où on va fermer dans 15 jours, hein, si c'est dans 15 jours. Donc un existant, mais un existant qui n'est pas non plus extraordinairement étonnant. Nous sommes en plus, faut le reconnaître, en phase de redéfinition d'un schéma directeur SI, d'une recomposition des différents services de l'université, donc on est dans une phase on va qualifier d'un petit peu déstabilisé du point de vue du fonctionnement. Donc c'est pas complètement étonnant non plus qu'on n'arrive pas forcément à aller plus vite que aussi vite qu'on souhaiterait y aller. Donc l'existant, et je ne vais parler que de l'accompagnement des enseignants, hein. Nous avons un portail ENT tout à fait classique et sup ouvert à tous que nous venons de relooker récemment, qui fonctionne sans problème pour... tout le monde, et tous les étudiants sont connectés sans problème aussi à ce portail. Nous avons mis un service dans cette ENT, tout est dans l'ENT, de toute façon, tout est accessible uniquement à travers l'ENT. Nous avons mis en place un service qu'on a appelé Web Campus et qui, pour l'instant, tourne sous Dokeos. Quand je dis pour l'instant, c'est qu'on est marié avec personne et qu'on peut tout à fait changer d'avis dans le cours du temps. Et donc, nous avons choisi de nous appuyer principalement sur les fonctionnalités offertes par cette plateforme Dokeos pour réagir par rapport au risque de pandémie. Donc, on a essayé d'éviter de multiplier l'apparition de nouveaux outils qui qui pourraient éventuellement être plus performants et plus efficaces, mais qui ne seraient pas connus des enseignants qui sont déjà quand même relativement utilisateurs de Docker. Vous pouvez constater 200 enseignants formés depuis un an et demi. On a aujourd'hui une moyenne de 200 visiteurs différents par jour sur la plateforme. Et il y a 400 objets qu'on peut qualifier de cours. C'est le nom que donne Docker à n'importe quelle enveloppe contenant quelque chose. Ça peut éventuellement être un simple dépôt d'un document PDF. C'est déjà un cours. Et ça peut aussi être des cours qui peuvent être suivis à distance. Mais globalement, on est quand même pour l'instant dans un usage plutôt dépôt de documents dans le cadre de cet outil. Nous avons une liste de diffusion qui fonctionne bien entre les utilisateurs de Docker. Donc il y a une petite communauté, vous voyez, 200 personnes formées, un nombre important de collègues qui se sont auto-formés, qui n'ont pas choisi de passer par les dispositifs de formation mis en place depuis 2 ans et qui on les voit régulièrement dans les échanges qu'on a avec eux, se débrouillent très bien sans nous. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je rajoute quelque chose qui n'est peut-être pas toujours le cas dans toutes les universités, une excellente collaboration entre le CRI et le CRATIS, donc un appui important de la part du CRI pour tous les développements que nous ne sommes pas ni capables ni en situation de faire. Voilà, ça c'est l'existence, c'est-à-dire un fonctionnement tout à fait classique avec rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'on va avoir ajouté là depuis le mois de juillet pour la grippe A. On n'y est plus sur la grippe aviaire. On a bien sûr mis en place un dispositif de formation supplémentaire. On a commencé le 25 août en mettant des formations régulières de Docker supplémentaires qu'on a calibrées un petit peu plus petites que d'habitude. D'habitude, on fait 2 fois 3 heures pour la formation complète. Là, on a fait un kit de 2 heures qui permet de traiter plus de collègues en moins de temps. Ceci étant, faut être aussi tout à fait honnête pour répondre à la question que M. Benhamou posait tout à l'heure. On n'est pas débordé par les demandes de formation. Hein. On en a régulièrement 6, 7, 8 personnes qui viennent en formation, mais on aurait pu en former 2 fois plus ou 3 fois plus avec les ouvertures qu'on a proposées. On a formé en plus de ceux qui étaient déjà formés dans les dispositifs classiques 60 enseignants donc depuis 3 semaines. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est pas si mal. On a aussi lancé des formations qui existaient déjà l'année dernière et qu'on a augmenté cette année sur Audacity, petit logiciel de sonorisation, de prise de son qui permet à tout un chacun de s'enregistrer sur son poste de travail. Nous n'avons pas développé pour l'instant de dispositif de podcast dans les amphis, dans les TD, donc on s'appuie avant tout sur cet outil-là. Nous utilisons par ailleurs les outils de Docker, puisque Docker offre un équivalent entre guillemets d'Adobe Connect, puisqu'on a une classe virtuelle et la possibilité de faire la visioconférence. Ce que nous avons fait en plus, je le dirai tout à l'heure, nous avons développé un enregistreur sur cette plateforme puisqu'elle n'existait pas à ce jour et que, comme l'ont dit déjà beaucoup de collègues, on est plutôt sur une logique d'utilisation en différé qu'en utilisation en temps réel, ce qui paraît effectivement problématique à des tas de points de vue, à la fois de disponibilité des enseignants et des étudiants, mais aussi de charge pour les serveurs. Donc on a développé un petit enregistreur qui nous permet d'enregistrer les visioconférences, les cours en ligne, audio ou vidéo, qu'on peut créer automatiquement sur Docker. Bon, de petits détails, on a essayé d'échapper à une problématique que nous avons sur la formation du personnel enseignant ou non enseignant, qui consiste à faire le parcours du combattant pour trouver le site de l'ARH sur lequel se trouve l'offre de formation. Donc dans l'urgence, on est passé par Doodle et finalement ça marche plutôt mieux que le système classique. C'est dommage à dire, mais c'est comme ça. Et puis, nous avons développé, nous utilisons régulièrement l'outil Camtasia pour le faire, nous avons développé un certain nombre de kits de prise en main vidéo, aussi bien sur Audacity que sur Docker pour les enseignants
et sur deux kiosques pour les étudiants. Donc, nous disposons aujourd'hui d'un certain nombre de tutos, de quelques minutes, allant de 2 à 10 minutes pour utiliser le logiciel Audacity, deux kiosques pour les enseignants, pour les étudiants, mais aussi de tutos qui permettent à tous les étudiants qui n'en ont pas forcément encore l'habitude, parce que j'ai dit tout à l'heure que tout le monde était actif sur le NT. En tout cas, tout le monde est, aujourd'hui, les étudiants sont presque tous activé leur compte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils connaissent bien l'ensemble des outils. Donc on a développé aussi des tutos vidéo pour leur permettre d'accéder simplement aux différents services qui sont offerts dans le NT. Donc j'ai signalé l'existence de cet enregistreur vidéo sur la visio de Dokeos. Donc voilà, moi mon expérience elle est là. C'est toute petite équipe, pas beaucoup de moyens humains, pas possibilité dans le dispositif actuel de l'UPPA de tout réorganiser autrement. On est en train de le faire, mais on sera sûrement pris par la grippe si la grippe arrive. C'est un travail de longue haleine, on l'a déjà souligné tout à l'heure. Donc on travaille dans des conditions d'existants, avec des équipes trop réduites. Elles seront certainement augmentées dans le quadriennal prochain et dans le schéma directeur du SI que nous sommes en train de mettre en place. Mais dans l'état actuel, on en est là. Donc on a essayé de faire avec les moyens du bord, de mettre en place ce qui nous paraissait utile à mettre en place. Alors tout à l'heure, on a évoqué la question des documents non numériques. Nous disposons aujourd'hui, dans une université comme la nôtre, de photocopieuses de proximité qui font aussi du scan. C'est évidemment une solution très légère, très à la fois très légère et très lourde, mais c'est une solution qui peut permettre à tout un chacun, s'il existe un document manuel, bien sûr, s'il n'existe que dans la tête de l'enseignant quelque chose qu'il va déposer sur un tableau avec une craie, là on va avoir du mal, sauf à faire ce que disait tout à l'heure notre collègue de Nice. Mais pour ce qui est des documents existants, on est capable, nos services de reprographie ou simplement les terminaux dans les UFR et dans les départements, on est capable de numériser à très bas coût et surtout à très bas coût de travail tous les documents qui peuvent exister. Après, il faut les mettre en place dans Dokeos pour que ça puisse devenir un outil de formation à distance. Voilà, donc sans aucune prétention, on essaie de faire en sorte que si la pandémie arrive, y compris dans le sud, le grand sud aquitain, on soit en capacité d'offrir et aux enseignants et aux étudiants des moyens de continuer à travailler à distance. Bien évidemment, les systèmes de hotline seront mis en place dès que le besoin s'en fait sentir. Pour l'instant, on est en phase de formation des collègues dans la mesure où ils sont encore disponibles sur site. Voilà.
Merci beaucoup. Bon, voilà des deux exposés qui étaient, oui, pardon, me semble-t-il, très complémentaires, puisqu'il y en avait un qui était un peu orienté technologie et l'autre qui était plus orienté humain. Donc c'était des exposés intéressants. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, est-ce que ça suscite des réactions dans la salle? Oui. Je suis à gauche, là. Ah, voilà les micros qui arrivent.
Bonjour, Laurence Compara, responsable TIS à l'Université Stendhal Grenoble 3. Alors, je suis désolée, je vais commencer par un petit coup de gueule pour rappeler à nos éminents collègues des universités et de la SD TIS que les disciplines sciences humaines et sociales, les langues, les lettres, sont également des sciences, que nos enseignants-chercheurs sont également des scientifiques. Nous sommes un petit peu agacés d'entendre les vocables sciences et scientifiques réservés à d'autres disciplines et d'avoir un peu l'impression d'être oubliés systématiquement. C'est parenthèse juste. Fermée. Moi, je me pose un peu une question d'ordre un peu plus général. On se place dans une perspective où nos établissements seraient fermés, où on devrait donc du jour au lendemain remplacer des cours en présentiel par des cours à distance. Or, les stratégies pédagogiques en présentiel et à distance sont extrêmement différentes. Le cours à distance suppose des scénarisations spécifiques, des stratégies pédagogiques spécifiques, des accompagnements spécifiques. et la simple captation de cours en présentiel, même si c'est un petit peu enrichi avec une audio sur un support de cours, ne saurait remplacer de façon satisfaisante au plan pédagogique une réelle réflexion autour d'une formation réellement à distance. Actuellement, les TIS dans nos établissements, et c'est complètement pertinent, c'est surtout du présentiel enrichi, avec... J'ai plus de jus, si. Parfois des réflexions pédagogiques très poussées, hein, avec du présentiel et de la distance intégrée de façon très intéressante. Mais, se contenter avec tous les guillemets de rigueur de captation type podcast et de mise en ligne en catastrophe pour pallier aux cours en présentiel risque d'être moyennement satisfaisant sur le plan pédagogique. Alors, c'est peut-être mieux que rien, mais en vertu du principe que le mieux est l'ennemi du bien... si on devait fermer 15 jours, est-ce que d'un point de vue pédagogique, la bonne stratégie, c'est pas de considérer ça comme une interruption pédagogique, qui était peut-être pas prévue. On fait bien l'interruption pédagogique en vacances de la Toussaint d'une semaine, elle pourrait durer 15 jours, on décale notre calendrier pédagogique d'autant, et on reprend nos cours normaux. Alors je suis peut-être la branche sur laquelle je suis assise en disant ça, mais je m'interroge un petit peu sur la pertinence pédagogique de ce qu'on serait en capacité d'offrir, avec notamment tout ce qui a été dit sur le fait que nos enseignants ne sont pas encore forcément emparés de ces outils. J'entends parler de tutorat par forum. Du jour au lendemain, ça va être un petit peu rude, quoi. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, c'est vraiment une question ouverte. Après, on fera ce qu'on pourra, comme tout le monde, j'imagine.
Merci de cette question. Effectivement, la question de l'interactivité est au centre des débats. Peut-être qu'il y a des établissements qui ont pris des initiatives en matière de FOAD et qui ont des choses à nous apprendre. Je sais que beaucoup d'universités étrangères ont déjà engagé des processus de formation qui sont totalement à distance et qui intègrent ces questions d'interactivité. Alors, j'ouvre le débat à la salle. Bon, peut-être qu'il y a d'autres commentaires par ailleurs.
Antoine Rosy, je suis là au titre de la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance, et puis je travaille à l'UPMC par ailleurs. Oui, évidemment, tel que j'entendais les présentations, là, du point de vue des TIS, on comprend tout de suite que ces moyens doivent être mis en œuvre, mais ça ne fait. Si une université doit fermer un long moment, on n'est plus dans le présentiel enrichi, il faut véritablement passer à la formation à distance. Et ce qui a été présenté là n'est pas de la formation à distance. Pour prendre l'exemple du tutorat, qui est certainement l'exemple le plus criant, on a besoin de définir, de former et de recruter des tuteurs qui peuvent être des enseignants, évidemment, hein, mais de leur donner la responsabilité d'animer les forums, de leur expliquer comment ça fonctionne, en se basant certainement sur l'expérience de collègues qui l'ont eu précédemment, qui l'ont fait précédemment. Et il est clair... d'expérience pour moi dans le CTU de l'UPMC, si jamais je demande à un enseignant de faire un cours à distance sans qu'il l'ait fait auparavant, il va me donner son poli à mettre en ligne, ses fiches de TD à mettre en ligne, et il va demander aux étudiants de revenir pour l'examen. Et je vais obtenir une catastrophe. Effectivement, il faut que le poli soit en ligne, il faut... que les fiches de TD, si fiches de TD il y a, soient en ligne. Mais il n'empêche que l'accompagnement, ça, il faut le prévoir à l'avance, me semble-t-il, et il faut former les enseignants aussi bien pour le cours magistral que pour les travaux dirigés, que pour le tutorat, de façon forte, et si on veut pouvoir fermer une université longtemps, me semble-t-il.
Totalement d'accord avec cela. On est bien d'accord sur le fait que aller dans un sens uniquement en termes de transfert de savoir, ça ne suffit pas. Et donc, la réflexion sur l'ingénierie pédagogique à mettre en œuvre pour ce type de dispositif ne s'improvise pas en quelques jours. Monsieur ?
Oui. Tu veux répondre ?
Vas-y, Gérard. Non.
Gérard Soula, chargé de mission de TIS Aix-Marseille 2. Je suis tout à fait d'accord avec les deux interventions qui viennent d'être faites, et je vais enfoncer encore un petit peu plus le clou, à savoir qu'on a évoqué la pandémie comme une opportunité, comme un levier pour développer des activités. Il faut faire attention qu'on ne fasse pas croire, avec les outils qu'on va mettre en place rapidement, que l'enseignement, c'est mettre à disposition des supports de cours. Je pense que pour nos politiques, dans les établissements, pour les étudiants, il y a un risque très fort. Il y a un danger derrière.
Un point simplement sur l'hétérogénéité des compétences des publics enseignants visés dans le cas d'une fermeture d'établissement. Tout le monde n'en est pas exactement au même niveau. Et aujourd'hui, proposer une formation à l'ensemble du public enseignant à l'Université de Nice en disant « on va vous expliquer l'enseignement à distance, comment ça marche », on tapera à côté. On tapera à côté. Si on a choisi cette stratégie de dire maintenant on part du présentiel enrichi, donc on part des besoins de terrain et on essaie de voir comment on peut les résoudre dans un premier temps, pour ensuite espérer chacun, avec sa propre autonomie, son expérience pédagogique et ses souhaits pédagogiques, qu'est-ce qu'il pourra développer dans un second temps. Mais là, on en est encore, même pour l'ensemble des enseignants de l'université, au premier niveau, au niveau du présentiel enrichi. Donc leur parler de formation à distance aujourd'hui, même dans le cadre d'une pandémie, je ne suis pas sûr que ça les mobiliserait. Donc on est finalement dans l'urgent là. On est dans comment on généralise un minimum de base. Ensuite chacun trouvera je dirais des moyens pédagogiques à sa mesure et en fonction de ses compétences pour continuer faire cette continuité pédagogique. Et je pense que là les services TIS doivent être extrêmement polyvalents pour en fonction de chaque profil d'enseignant et des besoins pédagogiques pouvoir répondre et proposer des solutions. Quand je dis le forum, c'est un peu provocateur, un forum pour du tutorat, c'est parce que c'est extrêmement simple, et que ça couvre finalement, quelles que soient les compétences des enseignants, il est capable de lire les questions de ses étudiants, pas d'animer un tutorat, pas forcément d'y répondre de manière précise, mais il est capable de recueillir ces questions.
Je peux ? Oui. Alors, moi, je voudrais répondre à ça, parce que il est clair, si on demande aux enseignants dans l'improvisation de répondre. Une partie saura toujours répondre. On a des professeurs d'université qui assurent la comptabilité, qui assurent la gestion, et n'ont pas été formés pour ça. On sait que ça, c'est possible. D'un autre côté, si on part de l'idée que l'université ferme, à ce moment-là, la sensibilisation à l'enseignement à distance ou la formation à distance est automatiquement beaucoup plus forte. Et à ce moment-là, on peut... Puisqu'on ne peut pas se réunir à l'université, c'est l'idée de base, on peut peut-être envisager des réunions ou des visioconférences minimales pour des enseignements que l'on définit comme prioritaires, où l'on explique au minimum les bases d'une pédagogie différenciée. Ce en quoi tout au... Et ne pas rester sur... Le présentiel enrichi, me semble-t-il... Il y a 50 ans, on aurait donné des polis. Et puis, c'était fini. Mais on a effectivement, l'université ferme, on passe les papiers et on fait les examens. Mais ça va convenir à pratiquement aucun étudiant.
Voilà. Ça suscite de nombreuses réactions. Il demande beaucoup de demandes de prise de parole. Monsieur ? Oui.
Bon, j'y vais. Bon, donc, Paris 12. Donc, nous, on a défini plusieurs niveaux. La responsable de la cellule médiatiste est là-bas. Là, elle pourra prendre la parole si elle le souhaite. On a défini d'abord donc le niveau pour tout ce qui est la fourniture, récupérer les documents. Donc ça se fait au niveau de la plateforme pédagogique. Et donc la cellule Médiatis a organisé différents types de collecte des documents et elle propose des tas de solutions variées aux enseignants, comment se connecter, comment utiliser Google, enfin différentes possibilités. Moi, là, j'interviens plutôt en tant que VPCV. Nous, on a essayé de définir le niveau, le premier niveau, de façon à ce que, puisque c'est multidisciplinaire, Paris 12, donc on a toutes les disciplines, hein, de la médecine en passant par les sciences humaines, on a bien entendu le message, on a essayé de traiter le problème de façon égalitaire, quelle que soit la discipline. Donc le bon niveau, si vous voulez, pour nous, c'est le responsable de groupe de TD. Donc la première personne qui, en cas de pandémie aggravée, il ne faut pas non plus être catastrophique, je pense pas que ça dure toute l'année quand même. Hein. Donc ça durera quelques semaines et peut-être même pas quelques jours. Bon, enfin, moi, c'est mon souhait. Et par contre, je suis très favorable, bien entendu, au développement des TIS dans la durée et toutes ces nouvelles technologies. Alors, entendons-nous bien sur cette réflexion. Alors, donc, le premier niveau, c'est d'avoir le numéro mail du responsable de TD et de, des 20, 25, 30 étudiants de TD. Donc en cas de pandémie, ce sera lui le contact premier, quitte après à faire la liaison avec le professeur du cours magistral, etc., etc. Et on a demandé à chaque responsable d'UE d'avoir une fiche de liaison très simple. Il y a 10 lignes, il y a les adresses mail à laquelle il doit associer le programme de son cours et si possible les heures, exactement comme si tout se passait naturellement et que les étudiants travaillent tel jour de la semaine le cours de, on va dire, de chimie ou le cours de philosophie ou de droit romain à l'heure où le cours le fait avec les instructions et donc ce qu'aura donné le professeur. Donc je pense que tout professeur est capable de fournir son plan de cours, la durée et le document qu'il souhaiterait que l'étudiant étudie s'il n'est pas là. Donc je pense pas que ce soit un effort terrible de demander ça aux collègues. Et après, bien entendu, ensuite, sur la durée, comme on a dit, là, l'enseignement à distance doit prendre le relais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cette intervention.
Oui, ça marche là, oui. Daniel Guy, Université de Toulouse, le Mirail. Simplement, je rebondis sur l'intervention de la collègue. Faut-il continuer les cours via des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, ou faut-il maintenir une activité pédagogique et un lien pédagogique? Parce que si on est quand même en situation de pandémie, et du point de vue de la direction de l'université, un peu, ce qui est surprenant en vous écoutant, c'est dans quelle situation serons-nous? Combien d'étudiants malades? Combien de personnels malades? Qui pouvons-nous mobiliser? Dans ces conditions, faut-il maintenir tous les cours? Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire des étudiants qui n'ont pas pu suivre les cours? Et de l'hétérogénéité? Ou alors, faut-il maintenir une activité pédagogique pour favoriser une reprise rapide? Et donc, au-delà du débat qu'on a pu avoir sur les infrastructures et tout, moi, je suis pour l'instant un peu déçu de la matinée parce qu'il me semble qu'on tourne autour du vif, du sujet. Et d'autre part, est-ce qu'on ne risque pas de créer une attente trop forte si on n'est pas en mesure de répondre? Et donc, est-ce qu'il ne faut pas prendre garde à un risque qui serait de communiquer en termes « nous allons assurer une continuité pédagogique via l'ETIS » et puis en acte, de ne pas pouvoir l'assurer? Alors là, on nous le reprochera. Donc la question, c'est comment je mobilise une communauté, autour de quoi, avec quels moyens, comment on s'y prend quand on a un directeur du FR qui sont en face de nous, qu'on discute avec eux, qu'on voit comment on va mobiliser, compte tenu du temps qui nous est imparti. Bon, c'est sur cette base, si vous voulez, qu'à Toulouse, on a défini les travaux personnels ouverts à distance en disant on ne se substitue pas au cours, on propose une activité connexe pédagogique qui va aider l'étudiant à maintenir le lien, à être dans un climat d'études qui nous permettra de redémarrer rapidement dessus. Et ensuite, ça nous permet de demander, UE par UE, un effort quand même limité aux anciens chercheurs. Il y a des maquettes à rendre, il y a eu des événements l'an dernier, une actualité, donc on est dans un contexte particulier. Moi, j'aimerais qu'on débatte aussi du fond. Comment on mobilise les enseignants et combien, effectivement, on pourra répondre? Alors, et bien sûr, ceux qui sont les innovateurs, ceux qui savent déposer la ligne et tout, c'est gagné. Mais pour les autres, enfin, à mon avis, le défi est là. Comment on mobilise les autres, si on veut répondre à une pandémie?
Effectivement, la question de la mobilisation des enseignants-chercheurs est au centre aussi. D'autres, je crois, sur la partie droite de l'amphi, là, oui, au milieu.
Oui, moi, je voulais rebondir, en fait, sur le positionnement des services de formation à distance dans le cadre du plan de continuité pédagogique. Donc, Jean-François Meignet, je suis chargé de mission TIS à l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 et directeur adjoint de Télé 3. Donc, comme le disaient les collègues, en fait, il y a des compétences en matière de formation à distance qui ont été développées chez les enseignants, qui sont mobilisées pour les services de formation à distance. Donc, c'est des compétences qu'il faut repérer, valoriser et qui peuvent, en fait, servir pour l'ensemble de la communauté enseignante. Maintenant, quelle place a-t-on donné aux services de formation à distance dans les plans de continuité pédagogique ? Qui sont élaborés donc au niveau d'une présidence avec les services TIS, avec les VP. Je pense qu'on peut aussi se poser la question parce que il y a une expérience en matière de dispositifs de formation qu'on doit capitaliser.
Il y avait une direction à droite là, je crois. Oui, l'amphi, la partie droite est très demandeuse. Ah, madame, pardon.
Oui, alors je vais essayer de ne pas intervenir de façon sauvage. Ouais. Donc, je suis Michel Joab, chargée de mission TIS à l'Université Montpellier 2. Et j'adhère en partie à un certain nombre d'arguments qui ont été avancés, en particulier sur la différence entre le présentiel enrichi et l'enseignement à distance. Là, il faut qu'on soit clair. On doit trouver une substitution temporaire. Je préfère la formule du style assurer la liaison, assurer le lien pédagogique durant des périodes de fermeture qui ne seront pas nécessairement très longues, et plutôt que de parler de formation intégralement à distance. Moi, ce qui me semble essentiel, c'est que si on veut réussir, il faut impérativement fournir des solutions clés en main à l'ensemble de nos collègues. C'est-à-dire, si on veut des solutions généralisées, étendues à tous, et qui soient susceptibles d'être utilisées, il faut des solutions clés en main. Ça veut dire qu'effectivement, bon, bah, si on a des dispositifs d'enregistrement, il faut fournir l'équipe technique avec. Si on veut utiliser une plateforme pédagogique, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de créer systématiquement, associé à chaque unité unité d'enseignement, le site de cours sur la plateforme pédagogique avec une liaison automatique, une connexion automatique avec l'ensemble des étudiants qui sont inscrits dans l'unité d'enseignement, avec l'ensemble de tous les enseignants qui vont intervenir dans cette UE, de façon à avoir la coquille dans laquelle que les enseignants pourront alimenter. Donc ça, c'est le premier point. De façon à fournir, effectivement, à favoriser, je dirais, la mise en place effective de cette communication et de cette relation pédagogique. Et puis, d'autre part, de fournir, bien sûr, des scénarios pédagogiques avec les outils dont on dispose qui soient le plus proche possible de la pratique actuelle des enseignants. C'est-à-dire, c'est pas la peine de leur fournir des nouvelles modalités pédagogiques qui soient très éloignés de leur pratique. De toute façon, il vaut mieux leur fournir, donc le collègue parlait de découpage dont ils ont l'habitude, avec un découpage séquentiel ou thématique de leur cours, avec les activités associées. Il faut repartir de leur pratique actuelle et, effectivement, leur proposer des outils, des moyens de mettre en place un certain nombre d'activités qui vont se substituer à distance avec les éléments présentiels. Donc, je crois que ça, c'est ce qu'il y a de plus pratique, de plus effectif à mettre en place pour pouvoir effectivement arriver à une généralisation. C'est-à-dire qu'on met en place des conditions pour cette généralisation. On n'a évidemment pas de garantie que les collègues adhéreront et feront effectivement le travail le cas échéant. Mais au moins, on aura mis en place toute l'infrastructure et les modalités pédagogiques les plus proches de leur possible de leur travail qui leur permettront effectivement de, le cas échéant, en cas de fermeture, d'intervenir de façon immédiate. Donc ça veut dire que concrètement, on met en place à la fois des sites exemples avec des plateformes, des parcours pédagogiques exemples, avec des tutoriels qui vont aussi se situer sur le plan pédagogique et qui vont expliciter comment ces outils peuvent être mobilisés dans le cadre du maintien de ce lien pédagogique. Et surtout, ce qu'on est en train de faire, c'est de communiquer largement dans l'établissement sur ces éléments. Donc on a sur le site de l'UM2, il y a le plan de continuité qui est tout de suite visé dès la page d'accueil. Il y a un bouton qui permet d'accéder au plan de continuité à la fois des activités standards et des activités pédagogiques avec tous les contacts qui peuvent être mis en évidence sur cette page. Donc sans compter évidemment le corollaire. Moi, je compte plus sur les aspects hotline et assistance que sur la formation, puisque la formation, on a effectivement, comme le rappelaient d'autres collègues, on a d'autres chantiers comme la remise des habilitations qui sont en cours, on a la rentrée assurée, et donc on est obligé aussi de penser que ça se fera pas nécessairement au-dessus de pile, mais que ça se fera plutôt par le biais de l'assistance et de la hotline. Ce qu'on peut faire, c'est effectivement provoquer une démarche d'anticipation de la part des collègues, mais il faut aussi penser que si on ne l'a pas, il faudra pouvoir mettre en place tout notre dispositif d'assistance de façon à pouvoir, au moment où ça se présentera, comme la plupart des enseignants-chercheurs le font, le problème revient en dessus de pile et c'est l'assistance qui sera privilégiée.
Si, des remarques à droite.
Pardon. Ah oui.
Pardon, là.
Oui, bonjour, merci de m'écouter. Moi, je suis enseignant-chercheur. Donc, je crois en minorité dans cette salle. Et j'ai donc 2000 questions, puisque je ne suis pas un spécialiste de l'informatique comme d'autres, et qu'on a bien compris que les enseignants-chercheurs sont un peu handicapés là-dessus. Donc j'ai
enseignant-chercheur également.
J'en ai sélectionné 5. Oui, j'ai bien vu qu'il y en avait d'autres. J'ai dit en minorité quand même. J'en ai sélectionné 5 questions. La première, c'est sur la fermeture. J'entendais par là-bas beaucoup de bon sens, mais bon, j'avais envie de rebondir sur ce bon sens. 20 ans d'enseignement, je crois que j'ai connu 20 ans de fermeture chaque année, au moins entre 10 et 3-4 mois. Donc je suis ravi de voir qu'on se réunit cette année pour la grippe. Bon. Ça, c'était pas vraiment une question, mais une réflexion. Pour rebondir sur ce que disait madame tout à l'heure. La deuxième, alors j'en parlais avec ma voisine, on s'est un peu amusé, mais et si les profs sont malades, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est important aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais on est aussi soumis à... Non, mais les étudiants, on a bien compris, ils sont derrière l'ordinateur, mais nous aussi, on a le droit d'être malade, et 42 fièvres, moi, je ne serais pas en train de travailler derrière mon ordi. La troisième, c'est les différences à l'intérieur même d'une matière, parce que je trouve que là, on est dans un monde très uniformisé. C'est très beau, hein, c'est très vendeur, mais je vais prendre ma matière, anglais. Prenez un département, 34 enseignants, je peux vous assurer qu'il y a 34 méthodes pédagogiques à l'intérieur. Et je vais mettre en ligne, on va dire, allez, le prof de CM va nous expliquer qu'il faut travailler comme ça. Les 33 derrière ont dit, oh, moi je suis pas du tout d'accord, hein, même s'ils ne sont que maîtres de conf. L'uniformité, pour rebondir, et c'est ma quatrième question, vous voyez, je vais faire assez court, hein, m'amène à une autre question. En vous écoutant les uns les autres, moi je trouve ça formidable, et en même temps je me dis, chacun a été inventé dans son coin, le fil à couper le beurre. Alors quand je vois tous ces beaux cerveaux qui ont inventé des si belles choses, je me dis, si on vous avait tous mis ensemble dans une salle, on vous bloque pendant 3 semaines, mais le bel outil qu'on aurait pour l'université française. Et en plus, comme nous avons une mobilité en tant qu'enseignant-chercheur, on n'aurait pas à réapprendre en passant d'une université à une autre, parce que les forums qui expliquent, c'est vachement bien, mais alors personne ne les notice. Hein. Moi, j'ai jamais lu une notice sur rien, et certainement pas sur Internet pour savoir comment ça fonctionne. Bon voilà, bah, il suffit que je mute, je vais chez vous, j'ai adoré votre outil, il est beau, mais alors il va me falloir 3 semaines pour l'apprendre, et puis ensuite je vais là à Pau, je viens de Pau, hein. Il va falloir s'y remettre, etc., etc. Bon, passant. Et puis à la fin, un petit truc un peu perso, mais voilà, on va habituer les étudiants pendant 15 jours, 3 semaines à un bel outil à distance, et puis ensuite ils vont revenir à la fac, on va arrêter à distance. N'avez pas peur qu'ils nous le réclament après et que ça fasse du travail supplémentaire. Voilà, c'était une question que j'avais envie de...
Oui, pardon. Yann Bergeau, responsable du service d'enseignement par Internet, Université Jean Moulin Lyon 3. J'avais 2 questions sous forme de remarques, peut-être. Bon. Il y a un point sur lequel j'ai pas véritablement de réponse, qui est un point juridique. Imaginons donc, ce qui est des plus probables, qu'on ait un certain nombre donc d'étudiants, c'est-à-dire qui ne puissent pas assister aux cours, que l'enseignant s'investisse véritablement à fond sur les plateformes, les outils numériques, les plateformes pédagogiques, et que parmi ces étudiants qui n'accèdent pas au cours, il y en a qui font partie de ces 10% qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont rien du tout. Et là, je me demande, est-ce qu'on n'a pas un risque de rupture d'égalité et au final, un risque aussi de contentieux au moment des examens et éventuellement d'annulation des examens. Bon, ça, c'est le premier point auquel je pensais. Deuxième point, et je rejoindrai un petit peu ce que vient de dire monsieur, si on demande aux enseignants de s'investir, peut-être que le nœud du problème est là où on fait beaucoup de formation, on va essayer de faire beaucoup d'accompagnement, de les amener. Il va falloir être clair aussi, avec les enseignants-chercheurs, c'est que c'est chronophage. Hein. Dès qu'on passe à la plateforme pédagogique, ça va demander du temps, de l'investissement, il faudra répondre à des questions, parce que la dichotomie entre production de ressources et puis tutorat suivi des étudiants, dans la réalité, généralement, ça n'existe pas, on fait les deux. Est-ce que là, justement, le point clé n'est pas la question de la valorisation ?
Oui.
Hein, je vais peut-être appuyer là où ça fait mal, mais la valorisation, justement, du travail des enseignants-chercheurs, dans la mesure où on a effectivement un canevas national, mais que localement, on n'a pas forcément de réponse.
Oui, c'est moi qui réponds.
Monsieur
Albert-Claude Benamou. Je ne sais pas, moi, je suis médecin et j'ai l'impression qu'on a un petit peu besoin, entre collègues, enseignants, d'un peu de psychothérapie pour répondre aux angoisses que suscite le numérique chez certains de nos collègues. C'est d'abord ça. D'abord, leur dire que le numérique ne va pas supprimer leur fonction du lien pédagogique avec leurs étudiants. C'est fondamental. Le numérique enrichit le besoin en lien pédagogique. Donc, vous allez avoir plus de travail, peut-être. Alors, peut-être valorisation, je suis pas contre, loin de là. Mais l'enrichissement du besoin, du lien, et l'enrichissement du lien réciproque entre étudiants, identifier son prof dans un groupe virtuel, pouvoir lui parler beaucoup plus que quand vous êtes dans un amphi de 600 ou 700 étudiants, l'interactivité avec les étudiants, où est-elle? Je ne sais pas. Et elle est beaucoup plus directe et beaucoup plus fonctionnelle avec une bonne plateforme d'ingénierie pédagogique. Alors ça, c'est premièrement. Il y a une collègue qui a dit « le mieux est l'ennemi du bien ». Mais je crois que le mauvais est l'ennemi du mieux. Et actuellement, on travaille beaucoup, malheureusement, sur des ressources aléatoires, etc., non validées. Certes, il y a l'autonomie des enseignants, mais il y a aussi des façons de normaliser la qualité. Et ça, c'est très important. C'est pas seulement normaliser par l'indexation, mais normaliser par la labellisation des bonnes ressources. Et je crois qu'on est à l'époque, quand même, des réseaux sociaux, d'étudiants qui comprennent très bien là où est la qualité. Et si on leur offre la qualité, je crois qu'ils la trouvent et ils iront directement vers les choses, les meilleures. Il n'y a pas de raison de priver, sur le plan aussi de l'égalité des chances. Il n'y a pas de raison, s'il y a de très très bonnes ressources en ligne, issues dans telle grande université avec tous les moyens, je trouve assez étonnant qu'on puisse priver les étudiants des autres établissements les plus démunis d'avoir accès à ces ressources sous prétexte qu'il y a la compétitivité, qu'il y a maintenant la LRU et que les facs, les universités vont devoir se battre les unes contre les autres pour être les premières. Donc il y a une espèce d'élan démocratique au travers des ressources numériques partagées à condition qu'elles soient les meilleures et labellisées. Ma réaction, merci.
Je vous rejoins, Monsieur Benhamou. Je suis convaincu aujourd'hui. On va passer la parole hein, ensuite. J'ai les mêmes problématiques et un peu le même discours que le vôtre dans mon université. Merci. Et aujourd'hui, le discours que je tiens auprès de mes collègues enseignants-chercheurs, c'est que sur le plan de la recherche, c'est le H-factor qui permet d'indexer et de positionner le chercheur dans sa communauté, d'avoir une évaluation de la qualité de son travail. Et je suis convaincu que si on se projette sur un horizon d'une dizaine d'années, la qualité de la production pédagogique sera de même niveau, en tout cas en termes de visibilité de l'enseignant-chercheur, que la publication scientifique. Donc, complètement d'accord avec vous, avec ce discours.
Je voudrais revenir sur...
Pardon, vas-y.
Je voudrais revenir sur ce qu'on met à disposition de l'étudiant.
Tu te présentes, Serge.
Serge Parronneau, Université de Limoges. J'ai bien noté qu'on pouvait éventuellement mettre à disposition de l'étudiant des ressources du type polycopié, écrit à la main et scanné dans des situations d'urgence jusqu'à des serious games ou des simulations ou autres. Bon, moi je crois qu'il y a des gens dont c'est le métier et qui sont organisés. Il s'agit des universités numériques thématiques et d'autres campus numériques éventuellement, et qu'il y a des ressources de qualité qui sont produites au sein de ces universités numériques thématiques. J'ai noté aussi que vous parliez de démonstrations mathématiques. Il faut savoir que en termes de mathématiques, par exemple, tout le premier cycle est couvert et librement à disposition. Donc, faut pas considérer ça comme absolument impossible. Et puis, il y a un deuxième volet, bien sûr, c'est l'accompagnement à distance de l'étudiant par l'enseignant. Et là, la problématique est beaucoup plus locale. On a vu que vous aviez, vous, une plateforme qui s'appelait Jalon. Vous utilisez Dokeos. Il y en a d'autres qui utilisent Alion Spiral, d'autres qui utilisent Moodle, etc., etc. Donc là, il y a un problème de formation au niveau local des enseignants. Et je crois que ça s'invente pas, ça. On ne va pas former, il ne faut pas s'illusionner, on ne va pas former des gens à l'accompagnement à distance comme si c'était des spécialistes de la formation à distance. C'est pas vrai. Moi, si je pouvais utiliser une petite parabole, je dirais simplement il s'agit de ne pas se noyer, quoi. Donc on apprend à nager à des personnes, mais on ne va pas s'occuper du style.
Oui. Marie-Claude Lesage de l'UNR Languedoc-Roussillon. Je rebondis un peu sur l'aspect formation. Ce que je me disais, on est bon. On est dans une situation de crise, quoique moi j'ai quelques doutes, je suis d'accord avec mon voisin pour dire qu'il y a eu d'autres situations de crise aussi. Et bon, il se trouve que cette fois, on essaie de réagir très bien, mais c'est vrai qu'on ne va pas produire de la qualité, on le sait. Alors moi il me semble que on travaille pour cette crise, c'est l'objet. J'ai bien aimé le titre « Continuité pédagogique ». Eh bien, continuons. Je pense que c'est très important de faire un travail de fond et à long terme, et c'est au ministère que je m'adresse, pour qu'on aide aussi ce travail de fond, de formation des enseignants-chercheurs à l'usage de ces outils. Ils peuvent avoir la production la meilleure du monde, l'environnement technologique le meilleur du monde, si au niveau des usages pédagogiques d'un outil, moi je dirais la CRE, c'est un excellent outil aussi à certaines occasions, ces technologies-là sont d'excellents outils, elles ont un peu l'inconvénient d'être coûteuses et de demander une appropriation importante. Je crois qu'il faut qu'on accompagne les enseignants-chercheurs à long terme dans ces formations. Nous essayons de le faire en Languedoc-Roussillon et on a commencé eh bien, par les petits jeunes, si vous voulez, entre guillemets, c'est-à-dire les moniteurs des CIES qu'on forme, et dans un plan de formation plus large ensuite pour les nouveaux enseignants-chercheurs et puis de façon fondée sur le volontariat pour ceux qui sont déjà en poste et qui veulent travailler plus loin. Alors, évidemment, on a réagi un peu à notre niveau à cette situation d'urgence, on va dire. Nos moniteurs qu'on a commencé à former depuis un an et qu'on a toujours avec nous, on leur a dit cette fois-ci, vous, vous êtes formés, vous avez déjà une notion, eh bien, imaginez que vos collègues plus anciens dans les laboratoires et enseignants-chercheurs vont vous solliciter maintenant parce qu'on fait savoir que vous êtes formés, que vous êtes prêts à être peut-être une ressource. Ils sont débutants dans l'enseignement et dans leur métier, mais ils ont des connaissances, ceux-là en tout cas, en usage de ces technologies que d'autres collègues n'ont pas. Et ça peut aider et développer.
Derrière, madame, oui.
Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marie-Claude sur la formation des enseignants. Et peut-être si on a loupé le passage de créer un outil commun à toutes les universités, peut-être qu'on peut aujourd'hui, en demandant au ministère, de faire une cellule qui s'occupe de la formation des enseignants et que ce soit un plan de formation sur l'ensemble des établissements. En reprenant aussi l'idée d'Albert Claude Benamou sur le côté psychothérapie, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a réellement des choses. Moi, ça fait 10 ans que je forme des enseignants et on voit qu'on a essayé de trouver des méthodes originales avec du théâtre, des clips vidéo, etc., pour essayer de trouver d'autres supports. Là, j'ai une question, moi, une question existentielle pour un service TIS aujourd'hui. C'est OK, on a des enseignants qui ne sont pas venus jusqu'à aujourd'hui sur notre plateforme pédagogique. Là, on leur demande de déposer rapidement, on leur fait des petites formations, on leur demande de déposer rapidement leur support. Les enseignants vont faire ça, les étudiants vont y aller. Comme c'est évidemment pas des outils prêts, enfin des ressources prêts vraiment de qualité pour ce système-là, est-ce qu'on va pas vers une catastrophe en se disant, voilà, les enseignants vont dire, on a déposé, ça a servi à rien, les étudiants vont dire, c'est nul, et tout le monde va déserter les plateformes. Donc moi, c'est vraiment une question existentielle. Est-ce que je le dépasse, est-ce que je leur demande de déposer sur ma plateforme Campus Vet, ou est-ce que je leur demande de déposer, demande au service informatique d'ouvrir un grand dépôt et qu'ils déposent là, sachant que de toute façon, on va pallier à rien. Mais j'ai très très peur de les emmener vers un chemin où on va tous se casser la gueule.
Pour prendre l'exemple, pour rebondir sur Nice par exemple, sur le dispositif que je vous ai montré et les actions que j'ai faites, on a mesuré à peu près un tiers des enseignants qui l'ont fait. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des enseignants de l'université qui ont fait le choix de diffuser un support et de le diffuser à leur classe de cette manière. Donc tout à l'heure, j'entendais des remarques sur le fait que c'était prendre les enseignants pour des idiots, mais les autres deux tiers, ils ne sont absolument jamais intéressés à ce type de dispositif et ne n'en sont même pas encore à penser à dire comment je vais construire peut-être un tutorat à distance ou faire un complément au présentiel. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces deux tiers-là en cas de pandémie? Je pense que la réponse est que bon, on gagnera peut-être un tiers de plus si ça marche bien, hein, si voilà, mais c'est tout. Et donc sur le court terme, on ne pourra pas engager de formation de cette manière. Donc déjà là, en faisant très simple, on court un tiers des effectifs. Les deux tiers restants, je m'interroge beaucoup. Je pense que là, bon, il faut voir à moyen terme, il ne faut pas forcément s'arrêter à cette crise, là, ou cette réflexion autour d'une crise, mais bon.
Oui, je voulais juste quelques mots comme ça à propos de ce qui s'est échangé là. Moi, je suis assez d'accord avec un certain nombre des remarques qui ont été faites, en particulier sur le fait qu'on se transforme pas du jour au lendemain, le soir de la fermeture, en enseignant à distance. C'est un vrai métier qu'il faut apprendre, et souvent apprendre sur le tas. Parce que c'est pas très simple d'animer un forum en simulation. Il faut le faire. Il faut avoir des vrais étudiants à distance pour le vivre et pour se rendre compte des difficultés qu'ils ont et des difficultés qu'on a à répondre à leurs questions ou à échanger avec eux. Donc ça demande effectivement une préparation, certes, mais aussi un engagement fort de la part des enseignants-chercheurs vers ces genres d'outils-là. Mais restons raisonnables. On est en train d'essayer de gérer une crise. Je suis un peu d'accord avec ma collègue de Veto, c'est ça, qui dit qu'elle est inquiète. Je pense pas qu'il faut qu'on donne l'impression que tout ce qui va être mis à disposition des étudiants dans les 3 mois qui viennent, si la crise arrive, sont la quintessence de ce que doit être un enseignement à distance. Sûrement pas. C'est pour ça que je suis intéressé par la proposition que fait Toulouse 2, des travaux qui sont des travaux d'attente en fait entre le moment où on quitte les amphis et le moment où on y revient. Faut surtout pas donner l'impression que dans ces temps-là, on va être capable de mettre en place un vrai enseignement à distance avec un vrai tutorat de qualité. Après, je suis aussi d'accord sur le fait qu'on a des ressources et qu'on exploite mal. Aujourd'hui, que ce soit celle des UNT, que ce soit celle de Canalu, on est en capacité d'utiliser des... Le seul problème que ça pose, vous le savez tous très bien, c'est que c'est pas les miennes. Les miennes, au sens, c'est pas celles que moi, enseignant, j'utilise traditionnellement. Donc, on risque d'avoir des réactions en disant, oui, mais ça, c'est pas comme ça que je fais. Notre collègue disait qu'il avait 34 enseignants d'anglais qui avaient 34 méthodes pédagogiques différentes. Sont-ils capables? Sont-ils prêts? Et on le sent bien dans les formations qu'on peut mener de notre côté, pas toujours, à utiliser la ressource du voisin. Et, quitte à la re-customiser à sa sauce. Mais faut-il encore utiliser la ressource du voisin? Bien souvent, on préfère sa mauvaise ressource à une excellente ressource fournie par le voisin. Donc oui, faut développer la communication autour des ressources existantes. Il y en a des tonnes et elles sont très bonnes. Ça suffira pas pour des collègues qui n'ont pas encore mis les doigts dedans à les convaincre que utiliser des ressources de l'autre et accompagner ses propres étudiants sur ces ressources-là peut être une bonne solution. Donc on a effectivement encore plein de freins. Ne prétendons pas qu'on va faire de la continuité pédagogique, au sens où on va pouvoir tenir 6 mois. Tout, soyons très clairs, si la pandémie dure 6 mois, le semestre sera foutu. C'est une évidence. On va pas. Donc sur la question que vous posiez tout à l'heure sur les risques de recours, si on est dans des dispositifs d'attente de reprise, on peut considérer que on aide l'étudiant à ne pas quitter complètement l'espace pédagogique, et là les recours seront plus difficiles. Si on prétend que les cours ont été donnés et que tout le monde les a eus et qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là, là je suis d'accord avec vous, on va avoir des recours et ils auront bien raison. Ceux qui n'ont pas eu accès à ces ressources, ils auront bien raison de porter le paix et de nous mettre en procès, parce qu'ils n'auront pas eu la ressource pédagogique. Donc oui, restons calmes. Je pense qu'il faut essayer de bien montrer qu'on cherche des solutions qui permettent de tenir le choc. On n'est pas dans des situations qui aujourd'hui nous permettent d'être en capacité de remplacer, et on les remplacera jamais, je suis aussi d'accord avec Benamou là-dessus, on remplacera pas la relation pédagogique par la mise à disposition de ressources numériques dans n'importe quelle plateforme, aussi colossalement géniale qu'elle soit. Donc restons calmes et essayons de proposer des solutions qui permettent à chacun de trouver quelque... On signalait d'autres accidents, entre guillemets, les années précédentes. Il y a plein d'enseignants qui ont déposé pendant les grèves des ressources. Ils n'ont pas prétendu faire remplacer leurs cours par des ressources. Ça a fonctionné, tant bien que mal, mais les étudiants, pour certains d'entre eux, étaient relativement contents de ce qu'ils ont trouvé. Ils ont gardé le lien. Faisons en sorte qu'on garde le lien pendant les 2, 3, 4, 5 semaines que durerait la pandémie, et ce sera déjà pas si mal que ça. Moi, je suis pas plus exigeant que ça.
Bien, merci beaucoup. Je crois qu'il est temps de clôturer cette session. Monsieur Capul, je passe sous votre contrôle. Allez, une dernière question, une dernière remarque.
Non, en fait, plutôt une question. En fait, là, actuellement, on est en train de parler de moyens techniques, mais à travers, en fait, les plateformes d'enseignement à distance, et je me suis pas présenté, Laurent Vasseur, responsable TIS de l'Université Paris 4, donc sciences humaines. Bon nombre de nos enseignants utilisent dans leurs cours aujourd'hui des œuvres, des images. Et derrière cela, en fait, se pose un énorme problème de droit d'auteur en termes d'utilisation et de mise en place de ces ressources sur les plateformes numériques. Et comment aborder ce problème de droit d'auteur? Comment les aider? Comment les guider? Comment faire en sorte, même si la plateforme elle est accessible à travers un intranet, ou plutôt un extranet, puisqu'en fait, elle est accessible de l'extérieur, mais sur un public authentifié, comment assurer que l'enseignant, lui, ne va pas au-delà de l'utilisation des droits d'auteur?
Il le fait déjà. Vas-y, interviens si tu veux.
Vous posez une vraie question. Ceci dit, vous savez aussi bien que moi, quand vous utilisez ces ressources-là dans votre propre cours, vous êtes déjà en la loi. Donc, oui, attendez, vous les connaissez par cœur, les exceptions pédagogiques, je les ai bien regardées, elles sont quand même excessivement restrictives. On ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Oui, mais elles sont... On va dire que beaucoup d'entre nous, moi le premier, dépassons très largement l'exception pédagogique.
Je crois qu'elle a été étendue au numérique, non, récemment, ou qu'il y a eu une évolution de la loi, non, qui a étendu l'exception pédagogique à l'utilisation de... Pardon ? Oui, sauf des offres marchandes.
Ce qui me semble ressortir, c'est que si monsieur pose la question, c'est qu'il y a une problématique d'accompagnement des enseignants et de sensibilisation à ces questions-là. Ouais.
Et d'autant plus qu'en fait, en termes de droit, autant c'est clair quand c'est utilisé dans les zones intranet de l'université et que l'on peut effectivement mettre des ressources à disposition et moyennant les quotas, etc. Mais à partir du moment où c'est mis en extranet, comment aborder ces problèmes de mise à disposition de ressources? Une plateforme d'enseignement à distance, aujourd'hui, ne gère pas une notion d'intranet ou d'extranet de façon très très simple.
Du côté des UOH, il y a peut-être des réponses de l'UOH, puisque du côté de l'Université ouverte des humanités, il y a probablement ce type de contenu qui est... Non, pas du tout. Cette problématique n'est pas abordée. Je ne sais pas où sont les gens. Non. Non, monsieur, je pensais que vous vouliez intervenir, monsieur à gauche, là, juste.
Non, je voulais passer la parole à Christophe Porlier sur l'UOH, peut-être pour répondre sur cette question du droit d'auteur. Je crois que sur les ressources qui sont mises en ligne, la problématique en cas de fermeture de l'université, c'est celle de l'enseignant. S'il recopie à l'identique son cours, il sera tenté de donner une photocopie d'article, par exemple, en cours. Il ne peut pas le faire en ligne, théoriquement. Pareil pour l'accès aux ressources numériques, elles sont calibrées sur les ressources documentaires numériques, sont calibrées sur des conditions d'accès. On ne va pas les révolutionner dans les 15 jours qui viennent, et on va avoir des problèmes d'accès comme ça. Peut-être, puisque j'ai le micro et qu'on est en fin de session, une autre remarque ou une réflexion sur l'ouverture et voire l'ouverture au grand public sans authentification d'un certain nombre de ressources pédagogiques. On va créer une manne qui va amener à du plagiat. On sait aussi que si on avait restreint l'accès à certaines ressources, c'était pour éviter le plagiat. Ouvrir les ressources au grand public, à tout public, ou sur authentification lorsqu'on le pourra, lorsqu'on sera prêt, ou sans authentification, c'est favoriser quelque part le plagiat. Et là, c'est un des autres problèmes qui a été soulevé par la ministre à maintes reprises. Une question a été posée tout à l'heure. Je suis responsable du service des TIS et de l'enseignement à distance de Grenoble 2, l'Université Pierre Mendès France, l'autre université de sciences inexactes de Grenoble. Et on a une pratique de l'enseignement à distance de longue date. On a 1600 étudiants aujourd'hui à distance complète. Et la question de l'enseignement à distance s'est posée à l'abord des grèves, à l'abord de la pandémie. Et on a demandé d'une manière régulière, dès qu'il y a fermeture de l'université, si les enseignants de l'enseignement à distance accepteraient de libérer leurs ressources comme ressource de substitution aux enseignements présentiels. Puisqu'évidemment, si on a une année d'études complète en ligne, on pourrait imaginer qu'elle serve à remplacer une année d'études, une portion d'année d'études empêchée. les enseignants de l'enseignement à distance ont toujours refusé, quelle que soit la gravité des fermetures, de libérer leurs ressources, parce que ces ressources sont payantes, puisque les étudiants à distance acquittent de droits spécifiques pour y accéder, et parce qu'aussi ils refusaient de mettre à disposition de leurs collègues les ressources qu'ils avaient bâties pour l'enseignement à distance. Elles sont scénarisées pour l'enseignement à distance, elles répondent à tous les critères qu'on a bien voulu évoquer ce matin. Elles sont dans des plateformes totalement sécurisées, leur diffusion est extrêmement limitée. Je ne crois pas, y compris dans les 15 jours qui viennent, que j'arriverai à décider mes collègues ou que mon président arrivera à décider ses collègues de libérer ce type de ressources-là pour l'accès à un public plus vaste. Maintenant, ça pose le problème de l'indexation des ressources, du recensement des ressources. On voit à travers et à la fois les UNT qui sont sollicités à ce propos et la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance qui est également sollicitée à ce propos et qui sollicite ses adhérents, qu'on a un défaut dans l'identification des ressources dans les établissements. Ce défaut-là, il est lié aussi à un problème de moyens humains d'indexation. L'indexation, c'est un vrai métier. Il y a peut-être des gens des ressources documentaires ici qui pourront le confirmer. On ne sait pas forcément le faire. On n'a pas forcément les outils pour le faire. Enfin, une dernière toute petite remarque sur l'adéquation des outils aux besoins actuels. On voit aussi des points d'achoppement avec ce qu'on aurait aimé faire. Lorsque la pandémie est apparue comme problématique de mise en ligne d'enseignement, la première réflexion que j'ai eue, moi, avec les gens de mon service, c'est d'absorber l'offre de formation telle qu'elle était présentée sur notre portail CASUP pour nous, puisqu'elle était au format, elle était censée être au format CDMFR, et je pensais la réinjecter dans Moodle ou dans Sakai, puisqu'on a deux plateformes qui peuvent accepter ce format-là. Malheureusement, on avait raté une version et ça coûte 5000 euros et ça, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, mais dans l'idéal, évidemment, on absorbe l'offre de formation, on la réinjecte dans une plateforme, on redéploie l'offre de formation dans une coquille, comme l'a dit Michel Joab tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant à faire immédiatement. Les outils techniques existent, on a des besoins en termes de moyens humains d'accompagnement et en termes de moyens financiers pour payer les adaptations nécessaires des logiciels. On n'a pas tous la chance d'avoir des grands services TIS ou des grandes DSI, comme on a pu le voir dans les universités qui ont présenté des choses ce matin.
Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'il faut clôturer cette session. Merci beaucoup à tous pour tous ces échanges constructifs. On voit qu'il y a...